Reçoit aujourd'hui Gilles Lartigot, l'auteur de Hitin, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, et Hit 2, des morts et des vivants, chronique d'une société toxique. Celui que l'on surnommait le gourou du bien manger est un inventif intuitif. Son esprit d'entrepreneur lui fait traverser l'Atlantique, le conduit de la musique rock au dernier progrès de l'informatique, du culturisme, à la diététique, de l'internet, à lanceur d'alerte de la cause animale. Bienvenue dans le monde de Gilles Lartigot, bienvenue dans le monde réel. Générique.
Nous sommes en guerre.
Bienvenue dans le monde réel, un monde où vous avez le droit d'avoir peur, si vous le souhaitez, et où vous êtes en droit aussi de considérer que nous ne sommes pas en guerre. Bienvenue dans Géopolitique Profonde TV, bienvenue dans le monde réel. Bonjour Gilles Lartigot, et bienvenue parmi nous.
Bonjour Nicolas, je suis très heureux de te retrouver sur ces magnifiques plateaux des Géopolitiques Profondes que j'ai connus dès le début d'Internet, il me semble. La chaîne a commencé il y a à peu près 2 années, il me semble.
Mais elle n'est depuis que 3 mois dans ses studios.
Et j'ai vu l'évolution, et vraiment bravo pour cette évolution.
Et ben justement, cette évolution, on la doit au magazine Géopolitique Profonde. On vous rappelle la nécessité de vous y d'adhérer, de nous rejoindre. Vous y trouvez les meilleures signatures à la fois du magazine et de ceux que vous aimez entendre dans les débats tels qu'ils sont initiés lundi, mardi, jeudi, vendredi par Mike Borowski et cette nouvelle émission dont nous essuyons les plâtres, entre autres avec Gilles Lartigot, Le Monde Réel. Gilles, on a regardé ensemble le générique de cette émission. On y entend deux voix particulières, celle du mentor et celle du disciple, si j'ose dire. Klaus Schwab qui dit pourquoi avoir peur ? Il ne faut pas avoir peur. Et puis Macron qui, un soir du mois de mars 2020, si mes souvenirs sont bons, nous explique et le dit au moins 6 ou 7 fois dans son intervention, nous sommes en guerre. Qu'est-ce que vous inspire sur le monde d'aujourd'hui, reflet ou structuration même du monde, cette double injonction contradictoire d'être à la fois en guerre et de ne pas devoir avoir peur ?
Alors déjà, c'est deux personnalités qui sont différentes. Hein. Je ne savais pas que Klaus Schwab se prétend être le mentor peut-être d'Emmanuel Macron.
À Davos.
Il faudrait demander à Emmanuel Macron.
Mais il le prétend lui aussi. La dernière fois à Davos, il y avait une cérémonie d'intronisation des young leaders de haut grade. Et Emmanuel Macron avait dit à Klaus Schwab, je viens au rapport.
Donc... Quand Klaus Schwab se dit il faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de quoi ? Déjà il faut poser le contexte. Et je m'aperçois depuis que je suis dans cette recherche en fait d'informations, mes enquêtes ont commencé il y a quasiment 15 ans, tu le sais, enfin vous le savez dans la protection animale. Il y a deux types de personnes, il y a des personnes comme nous qui vont chercher l'information, donc qui ont plutôt tendance à être réceptifs à ce type de message, et d'autres personnes qui ne connaissent même pas Klaus Schwab et le Great Reset. Hein. Donc ça les dépasse. Macron, c'est la même chose. On sait aujourd'hui, lorsqu'il a maintes fois répété nous sommes en guerre, c'était par rapport, je dirais, à ce programme d'ingénierie sociale que l'on a connu durant ces 2 années. Donc voilà, on était en guerre contre quoi exactement, on ne le sait pas. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est assez contradictoire. Parce qu'on a des points de vue différents. On a des gens qui sont réceptifs, d'autres moins. Des gens qui vivent aussi dans la crainte Et l'incertitude du lendemain, moi j'ai étudié aussi tout ce courant du survivalisme, étant aussi survivaliste moi-même, lorsque j'ai vécu 2 ans dans une maison dans les bois au Québec, bon, il faut avoir un minimum de résilience. Je me suis aperçu que le survivalisme était un mot comme ça, un mot tiroir, un mot fourre-tout, où on mettait des principes quand même qui régissaient la vie de nos grands-parents. Par exemple, mon grand-père avait des réserves de nourriture, des réserves aussi de bon vin, quoi, quand c'était de la piquette dans la cave. Voilà, on avait de quoi subvenir à nos besoins à l'époque, parce qu'on avait connu le manque, on avait connu la guerre notamment. Et aujourd'hui, je dirais, cette frénésie en fait d'informations nous plonge dans une incertitude. Certains peuvent avoir comme ça la peur comme ça du lendemain, et d'autres, je dirais, passent complètement à côté. Et c'est pas forcément très très bon d'être informé et d'avoir peur et d'être toujours, je dirais, sur la coche, comme on dit au Québec, par rapport à cette information anxiogène, parce que ça nous empêche d'avancer. Et je remarque aujourd'hui que nombre de nos concitoyens, pas plus tard que ce matin, j'ai une amie qui m'a appris qu'elle partait vivre à Bali. J'ai l'impression que tout le monde part de la France aujourd'hui. Moi, je suis revenu en fait du Québec pour rester dans les tranchées aux côtés de mes compatriotes, et je vois qu'en fait, il y a pas des désertions, je sais pas ce que je veux dire, mais quelquefois, il vaut mieux aujourd'hui être étranger, j'irai dans un autre pays, pour pouvoir avoir un petit peu plus de liberté de parole ou d'agissement. Et je remarque que ces personnes-là, très souvent, font le choix de partir de l'étranger, parce que c'est compliqué et c'est dur aujourd'hui de vivre ensemble, de vivre en France, si tant est qu'on a, je dirais, une parole et qui est libre.
Ce qu'on dit d'un survivaliste, c'est quelqu'un qui est assez individualiste, qui va en effet s'enfermer dans un trou au fond de son jardin, mais qui n'en ressort pas. La grande différence avec vous, Gilles Lartigot, c'est que je dirais que vous avez eu, à un moment donné, tout un tas de raisons qu'on va expliquer, puisqu'on va faire le parcours entier de votre vie dans cette émission. Et on va commencer quand vous étiez beaucoup plus jeune, quand vous étiez, Gilles, le fils de votre père, entre autres. Donc, vous allez voir, on va en faire du chemin. Mais puisque vous parlez du Canada, c'est un moment où, en effet, vous allez vous reconstruire, vous refaire une santé, et puis tout ce qui va avec, et revenir, c'est-à-dire faire ce choix, à un moment donné, de dire « je vais pas ». Après tout, vous auriez pu dire, je suis bien là où je suis, j'y ai reconstruit une vie et je vais y rester. Vous avez fait ce choix ô combien respectable de ressortir justement de cette tanière dans laquelle, à un moment donné, dans sa vie d'homme, vous avez eu besoin de vous pelotonner en quelque sorte, et renaître pour finalement, certains disent réinformer, d'autres disent, en tout cas, communiquer sur des sujets qui vont être les vôtres. On va parler de la diététique, de l'alimentaire. Vous allez ressortir du Canada comme un fauve, mais dans une jungle. Donc vous connaissez, les fauves, ils connaissent la jungle. Hein. Mais par contre, ils vont, en tant que lanceurs d'alerte, en renvoyer tous les dangers de ça. Ça, c'est tout ce qui fait quand même la noblesse de votre engagement depuis plusieurs, presque, j'ai envie de dire, même si ça vous vieillit un peu, plusieurs dizaines d'années, ou en tout cas 20 ans, une bonne vingtaine d'années, en quelque sorte, 15 ans en tout cas.
Effectivement, j'ai eu un changement de vie professionnelle et personnelle en 2007, puisque j'ai connu une faillite professionnelle. Ouais. Je pense qu'on terminera peut-être là-dessus. Donc, il m'a poussé à me reconstruire ailleurs. Donc, j'ai mon épouse qui m'a comme ça invité et puis proposé d'aller vivre au Québec pour me reconstruire. Je trouve que le Québec est vraiment une terre très favorable pour renaître, justement, pour renaître et sortir de cette France qui était pour moi, qui commençait à être très anxiogène. Voilà. Mais je suis très content d'être revenu, en tout cas. Parce qu'en France, ça bouge. Au Québec, ça bouge beaucoup moins. Et puis au Québec, je n'étais pas dans mon pays, quoi. Moi, je suis un Français, je suis né à Aubagne, en Provence. Donc voilà, je suis très attaché à ma terre, je suis très attaché à mon pays. Voilà, si tant est que la France existe encore, hein, parce qu'on sait que la souveraineté n'est plus. Mais voilà, je suis très attaché aux valeurs de nos anciens. Et j'essaye, autant que faire se peut, voilà, de partager un message de ces valeurs aujourd'hui qui nous ont quittés ou que les plus jeunes ne connaissent pas.
Valeurs de vos anciens, mais vous n'êtes pas comme Hamlet qui finalement sait qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, qui sait que le roi, par l'intermédiaire de son père, qui est un spectre, lui dit toute la corruption, mais qui va rester dans le passé. Vous, vous n'êtes pas un homme du passé. Vous agissez parce que vous vous projetez, j'ai envie de dire, dans l'avenir. Le vôtre, celui aussi des générations à venir. C'est en cela que vous êtes plus, bien plus qu'un survivaliste. Parce que ce n'est pas seulement votre peau que vous jouez là.
C'est un peu, je dirais, ma façon aujourd'hui de transmettre.
Hein. Ouais.
En fait, il paraît qu'on est un homme lorsque on fait un enfant, lorsqu'on plante un arbre et lorsqu'on écrit un livre. Donc voilà, j'ai écrit deux livres, j'ai planté pas mal d'arbres, mais j'ai pas d'enfants.
Bon.
Par contre, j'ai des jeunes en fait.
Et vous avez des livres, vous avez vos bébés qui sont vos livres.
Oui, parce que c'est une certaine forme d'immortalité aussi, le livre. Hein.
Livre, ce n'est pas comme un enfant ou comme quelqu'un qui est créé, il y a cette plume, vous pourriez en parler, puisqu'on vous êtes auteur, c'est comme ça qu'on vous présente. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'écrire, et puis à un moment donné, ça vous échappe. Ça échappe littéralement, l'écriture, je crois.
Oui, et puis je suis fier en fait d'avoir un lectorat qui est plus jeune que moi, de toucher des vingtenaires. Là, pas plus tard que tout à l'heure, dans le métro, j'ai un jeune qui sortait qui était un pharmacien en fait, qui avait fait des études de médecine. Et qui me suit quasiment depuis le début.
Enfin, c'est pas inaperçu en même temps. Hein. Bon. Quand vous êtes dans le métro, vous ne passez pas inaperçu, j'imagine.
Moi, je pense que lorsqu'on passe un petit peu dans les médias, lorsqu'on est une personne publique, et surtout les réseaux sociaux font qu'on a la possibilité aujourd'hui, c'est une chance, hein, depuis que je suis blacklisté, je dirais, dans les médias mainstream, c'est une chance d'avoir des médias comme le vôtre également, qui m'invitent et qui me permettent de partager mon travail. C'est une grande chance aujourd'hui que nous avons.
Ce stress, il pousse, comme vous l'avez dit, un certain nombre de nos concitoyens à s'expatrier. Ça, c'est quelque chose que, je dirais, Gilles, vous avez... j'ai envie qu'on commence sur votre existence, sur votre vie de jeune homme, expérimenté très très vite.
Je suis parti tôt, en fait, je suis parti dès l'âge de 18 ans,
ouais.
J'étais un petit peu en rupture avec, ce noyau familial. Et puis, j'avais des rêves, j'étais musicien, donc les États-Unis me faisaient rêver, comme, toute personne de ma génération, parce qu'il faut savoir que les États-Unis se sont construits sur le cinéma. Les États-Unis, c'est un rêve éveillé, hein. Ouais. Ils ont vendu le rêve américain. Voilà, on nous a pas vendu le rêve à la française, malheureusement. Et pourtant, on a un roman national qui est hautement plus riche que celui des Américains. Donc, je suis parti à 18 ans en Californie, à Los Angeles, puisque la Californie me faisait rêver. J'avais quelques contacts là-bas, et puis j'ai commencé un petit peu à vadrouiller.
Vous y avez fait de belles rencontres.
J'ai fait de très belles rencontres, puisque c'est là-bas que j'ai rencontré Arnold Schwarzenegger. Ouais.
Ah, quand même.
Parce que j'étais un fan, en fait. Je pratiquais la culture physique dès l'âge de 16-17 ans, parce que j'étais très maigre, je faisais un complexe de maigreur.
Je suis allé. Vous allez plus en faire aujourd'hui, ça va. Enfin, de maigreur.
J'ai travaillé pour ça.
Vous restez d'ailleurs assez relatif. À mon avis, la masse graisseuse est faible.
Hein, faible. En fait, je suis un ectomorphe. Donc, les hommes de ma génération sont grands et minces. Voilà. Mais moi, je faisais un complexe de cette minceur. Surtout, que j'ai vécu avec les Conan, Terminator, les Rambo, les Rocky, et puis Jean-Claude Van Damme. Donc, toute cette trilogie, hein. Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, qui ont fait rêver, je dirais, tous les adolescents de mon époque. Et j'ai eu la chance, lorsque j'ai poussé la porte du club, le fameux Gold Gym à Venice, en Californie, première personne qui était derrière, c'était Arnold Schwarzenegger, qui sortait, qui faisait quelques entraînements, je crois que c'était juste après Terminator. Donc, j'ai eu l'occasion de le voir et de le côtoyer pendant ses entraînements, puis tous les bodybuilders de cette époque-là, qui est l'époque donc des années 80, c'était le milieu des années 80. Donc ça m'a motivé, parce que ça m'a donné envie également d'apprendre au niveau de la nourriture, parce qu'on m'a inculqué ce principe donc qui est le no pain, no gain, pas de résultats sans effort. Et surtout que l'alimentation permettait de construire ce physique. Je voyais ces gars super musclés manger dans leur tupperware, et puis se reposer, pratiquer de l'exercice quasiment plus deux ou trois fois par jour. donc de façon intensive. Voilà, ça m'a donné l'envie de m'intéresser à la nourriture. C'est pour ça que j'ai passé un diplôme en fait de nutrition là-bas aux États-Unis.
Ah, aux États-Unis. Ouais. Ah oui, donc en fait très vite vous êtes pris sur ces sujets que sont la diététique, la nutrition.
Ça a commencé là-bas lorsque j'ai pratiqué la culture physique. J'ai compris qu'il fallait alimenter son corps avec de bonnes choses pour pouvoir construire de la masse musculaire, tout à fait.
Et au niveau musical, parce que vous dites que vous êtes parti, il y a le culturisme, il y a le sport, mais il y a aussi la musique. Est-ce que vous avez fait pareillement, du fait de la providence, d'aussi belles rencontres dans ce domaine-là ?
Pas à l'époque, parce que j'avais très peu de contacts. C'est venu un petit peu plus tard, lorsque j'ai produit l'émission Heavy Metal Food pour une chaîne canadienne. Mais j'ai rencontré mes idoles beaucoup plus tard. Alice Cooper, que ce soit Kiss, tout ça.
Vous les avez rencontrés plus tard.
Plus tard. Donc j'étais musicien, je faisais un petit peu les piano-bars, parce que j'avais pas de carte verte. En plus, c'était une aventure qui est pour moi, qui m'a ouvert des horizons et qui m'a en tout cas motivé à faire des choses par moi-même. Voilà, j'ai toujours eu cet esprit d'entreprise. Mon père me l'avait inculqué assez tôt. Et lorsque je suis revenu en France, là, j'ai pris la décision, de faire les choses par moi-même et d'essayer de vivre de mes passions.
On a l'impression que vous êtes à l'origine, d'ailleurs, je connais bien cette génération puisque c'est la mienne aussi, vous êtes un enfant de la télé.
Oui.
Ça a changé depuis.
La télé n'est plus celle que nous connaissions à notre époque. Non. Je pense que la télé a dégringolé au niveau de la transmission, culturelle. Les émissions sont beaucoup moins instructives qu'elles ne l'étaient avant. Et c'est un constat assez dramatique, puisque ensuite j'ai eu l'occasion de travailler en télé comme chroniqueur. Ensuite, je suis passé après la sortie du premier livre, donc sur des plateaux comme Canal+,
Télévision,
etc. Je me suis rendu compte, la télévision, tout le monde le sait, c'est un grand théâtre. On vous invite pour une raison, c'est de faire de l'audience. Donc assez souvent, c'est des clashs avec des personnes qui sont à l'encontre de ce que vous pensez. Ça s'est dégradé. Ouais. C'est autre chose.
C'est sûr. En revenant des États-Unis, donc comme vous le dites, vous travaillez avec votre père. Il travaille dans l'imprimerie.
Mon père avait une petite imprimerie. Mon père était typographe. Il était maître typographe, parce qu'à l'époque, la typographie, c'était quand même quelque chose. Je rappelle que la typographie, c'est des lettres en plomb que l'on pose en fait sur des supports, et en fait, on fait des planches. Donc, il faut réfléchir à la mise en page, au nombre de caractères. C'était un métier hautement intellectuel en fait, l'imprimerie et notamment la typographie. Ensuite, la typographie a évolué avec l'offset. Est arrivé donc l'informatique avec l'offset, etc. Après, c'est le numérique. On ne se rappelle pas de cette époque. Moi, je m'en souviens parce que lorsque j'ai fait faillite de toutes mes sociétés, on m'a tout pris et on m'a laissé en fait les cases. C'était des cases en plomb en fait, où mon père avait commencé son métier, avait de vieilles presses. Donc le mandataire social m'avait dit, mandataire judiciaire m'avait dit, bon, mais ça coûte rien. Mais non, ça avait une certaine valeur, notamment une valeur sentimentale. Donc j'ai réussi à le garder. Et ça, pour moi, c'est un point très important, parce que j'ai toujours vécu dans le monde du travail. Mon père très tôt est devenu donc travailler pour un imprimeur. Ensuite, il a eu sa petite, imprimerie. Il a commencé dans un garage et ensuite c'est devenu une PME d'une vingtaine de personnes. Et j'ai encore beaucoup d'affect pour les imprimeurs, parce que je trouve que c'est les parents pauvres de la communication. À l'époque, c'est pour ça que j'ai très vite créé des agences de communication. J'ai créé la PAO. Peut-être qu'on en parlera.
On va en parler. Oui.
Et donc j'ai Je me suis rendu compte, en fait, que les imprimeurs étaient des parents pauvres. Les imprimeurs, en fait, avaient le moins de valeur ajoutée, puisque les prix étaient négociés par les agences de communication, qui prenaient donc les marchés chez le client, qui sous-traitaient, et qui prenaient donc le moins-disant. Et pourtant, c'est l'imprimeur qui fait les plus gros investissements.
Il y a des machines qui coûtent des
centaines de milliers d'euros, les grosses machines offset. Mon père avait une 5 couleurs, je m'appelle Heidelberg. On était parti en Allemagne voir cette machine. Donc c'est un investissement conséquent. Absolument. Et moi, j'étais en colère, parce que je voyais des agences qui allaient gratter comme ça les centaines d'euros à quelques imprimeurs pour aller chez le moins-disant. Donc les prix allaient à la baisse. Et il y a eu énormément de dépôts de bilan, notamment au début des années 2000. Oui, j'en ai fait partie, mais en fait, c'est pour d'autres raisons. Moi. Et donc voilà, c'est cette envie d'entreprendre m'a été...
Mais cette envie d'entreprendre, c'est exactement ce qu'on disait au début. Vous dites survivaliste, oui, mais vous sortez de votre trou. Et de même, par rapport à l'imprimé, vous arrivez, c'est pas de votre faute, c'est à nouveau la vie, à un moment donné... Rappelons-nous Victor Hugo, il disait l'imprimerie a tué la cathédrale. C'est-à-dire cette notion que, grâce à l'imprimerie, on allait pouvoir imprimer les Bibles, le savoir, la connaissance ne serait plus le fait de quelques-uns. Donc on est sur avec l'imprimerie, c'est déjà une formidable révolution.
Ah oui.
En soi. Oui. Et vous arrivez au moment où l'informatique, l'internet va tuer l'imprimerie. Mais vous, et ça, c'est encore à nouveau une spécificité de votre personnalité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, c'est dommage, ou alors je vais me mettre dans une petite niche, on va faire des livres d'art, des belles choses, des enluminures. Non, vous dites, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais chevaucher la nouvelle révolution qui arrive, donc Macintosh, donc Internet, racontez-nous tout ça.
Je suis revenu des États-Unis, c'était en 85, donc le Macintosh a été commercialisé en 84, et en fait la PAO n'existait pas. Il y avait la photocomposition, c'était les gros systèmes informatiques qu'on avait déjà investi avec mon père à cette époque-là. Mais très vite, je suis passé en fait sur la PAO, j'ai cru au Macintosh, j'ai intégré le Macintosh dans une agence, ma première entreprise en fait, que j'ai créée à 20 ans, qui était dans l'imprimerie familiale, et on s'occupait donc des mises en page, du pré-presse. On a commencé à manger un peu le marché justement des agences de communication, puisque l'imprimeur se contentait d'imprimer. Et nous, en fait, on concevait. Donc j'ai toujours eu ce goût, en fait, pour la publicité. Je suis un autodidacte à 100%. J'ai jamais fait d'études, hormis un bac G2 que j'ai eu, avec plus grand mal, en redoublant. Donc je suis un autodidacte.
Et ça, c'est bien aux générations. La télé, c'est la pub aussi. Hein.
Non, mais exactement, j'en parlais avec Ardisson. Tout à fait.
Alors, on se souvient de l'émission que vous avez fait avec Ardisson, justement, où il y a un ou deux chroniqueurs qui...
Surtout Michel Simès. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais pour en revenir donc au Macintosh, donc j'ai intégré très rapidement le Macintosh parce que j'étais un passionné d'informatique. J'ai connu les premiers Oric, Atari, etc. Et donc, j'ai fait mes premiers pas, en fait, avec la PAO. Donc, on a intégré ce système. On a été un des premiers en France. Donc, c'est allé très très vite. Et ensuite, au milieu des années 90, fin des années 90, lorsque le multimédia est apparu, donc là aussi, on a été les premiers à créer des sites Internet. Mais entre-temps, donc, j'avais cet amour pour les imprimeurs, je participais avec un réseau qui s'appelait Imprix France, une cinquantaine d'imprimeurs en France, qu'on s'était regroupés au niveau des achats. Donc, et personne, en fait, n'avait développé la compétence que j'avais développée dans l'imprimerie à Marseille avec mon père. Et donc, je suis allé former d'autres imprimeurs. Quand vous m'avez demandé quel métier, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait mettre à côté de Gilles Lartigot, aujourd'hui, c'est auteur, c'est évident, mais encore, j'ai d'autres casquettes. Je suis vraiment un entrepreneur parce que j'ai ça dans la peau. Et j'ai eu la chance d'être là aussi au bon moment et d'avoir été précurseur, que ce soit avec la PAO et ensuite avec le multimédia.
Multimédia, les CD-ROM interactifs.
Vous en souvenez pas de ça, les CD-ROM interactifs, peut-être.
Ça me dit vaguement quelque chose.
C'est des CD-ROM, en fait, vous étiez avec le QTVR, c'est-à-dire c'est QuickTime VR, peut-être que les plus anciens se souviennent, où on faisait comme ça, on pouvait faire une photo panoramique avec la souris. Pour nous, c'était la révolution. C'était donc, aujourd'hui, c'est vraiment...
Et ça, vous avez été un des premiers à l'initier?
Je pense avoir sorti le premier CD-ROM interactif. En tout cas, je le proposais aux sociétés, j'ai créé quasiment le premier portail pour des hôtels, notamment un groupe hôtelier de Monsieur Georges Antoun. Je voudrais le citer parce que c'est un entrepreneur que j'estime beaucoup, qui a un groupe d'hôtels qui s'appelle New Hotel. Et en fait, ils nous ont fait confiance dès le début, et avant Booking.com. Et donc, on a commencé à prendre des réservations via des sites Internet. Mais ça n'existait pas à l'époque. On téléphonait, allô, vous avez des places de libre? Et donc, on a court-circuité comme ça Booking. Booking, bien sûr, a écrasé tout le monde.
A pris le dessus.
Mais en fait, c'est Monsieur Georges Antoun était assez fier de dire, nous, on est devant Booking, même en référencement, tu vois. Donc, on était vraiment au tout début de ces développements. Et moi, ça m'a passionné. vraiment, j'étais un passionné. Donc, j'ai entrepris, non pas par réflexion, par, pour faire fortune et tout. D'ailleurs, je n'ai pas fait fortune, j'ai fait faillite. Mais voilà, j'ai eu de grands succès aussi, parce que j'ai créé beaucoup de start-up aussi au début des années 2000. Là aussi, peut-être on s'en souvient, mais on s'en souvient plus aujourd'hui des histoires d'Oussama Hamar. Mais les start-up, en fait, début des années 2000, c'était des projets en fait qu'on avait sur Internet. Notamment, j'ai un projet qui me tient à cœur, qui n'avait pas abouti à l'époque, mais qui était une véritable révolution. Il n'y avait pas d'annuaire de la téléphonie mobile. Il n'y avait pas à l'époque. C'était, je te parle ça, début des années 2000.
Mais il n'y en a toujours pas.
Donc j'ai acheté le nom de domaine monportable.com.
Oui.
Qui est un nom de domaine fabuleux.
Tous notre portable. Mais à mon avis, c'est encore à faire. Hein.
Moi, il m'appartient encore à mon portable.com, mais je ne sais pas ce que je vais faire.
Moi, je ne suis pas en mesure aujourd'hui, avec un 06, de retrouver la personne.
Hein. Alors,
sur Internet, ou alors c'est compliqué. Hein.
Alors,
il faut payer. Voilà, et puis,
Là, c'était par souscription. Enfin, les gens, je dirais, s'inscrivaient selon leur bon vouloir. Et donc, voilà, ça a été parmi les multiples startups que j'ai montées. Il y en a qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, mais il y avait cette frénésie. Ensuite, j'ai fait partie des clubs des business angels, comme on disait, voilà, où on a ceux qui avaient un peu d'expérience, ben ils allaient voir les projets des jeunes qui arrivaient. Oui. Et puis voilà, il y avait une espèce d'émulsion. C'était en fait la Startup Nation, mais avant Macron. Startup Nation, c'est plutôt ma génération qui l'a amené au début des années 2000. Et malheureusement, toute cette avance qu'on avait au niveau des idées, de la technologie, on l'a complètement perdue aujourd'hui, quoi. Tous les clouds nous appartiennent pas, que ce soit les Google, que ce soit du Apple, Microsoft, tout ça. C'est tout américain.
Alors qu'à l'origine, on avait tout. Et avant même l'Internet, on avait le Minitel, d'ailleurs. Qui aurait pu être...
Mais c'est énorme, l'invention du Minitel. On a inventé quand même la carte à puce. On a inventé la carte à puce. C'était en plus à Aubagne. J'aime plus, donc voilà. Donc, c'est quelque chose... Là aussi, j'étais au début, en fait, de cette invention qui a révolutionné toutes les transactions bancaires, etc. Comment ça se fait aujourd'hui qu'on ait perdu notre leadership? Comment ça se fait qu'on ait perdu notre leadership? Parce qu'on avait tout, en fait, pour réussir. On avait la technologie, on avait les esprits, on avait aussi ce qui est caractéristique à la France, c'est qu'on est inventif. Je pense qu'on est plus inventif que les Américains, mais par contre, ayant vécu aux États-Unis et ensuite au Québec, il y a beaucoup plus de facilité pour un entrepreneur en étant au Québec. Vous n'avez pas l'État qui va vous prendre de l'argent, qui va vous taxer avant que vous ayez fait de l'argent. Faites de l'argent, ensuite on va vous taxer. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'entreprendrai plus jamais rien en France. Et c'est dommage. Je pense que je ne suis pas le seul.
En tout cas, on va y revenir sur le pourquoi du fait qu'on n'est plus inventif. Vous êtes un inventif, vous êtes un intuitif, donc vous avez toujours cette intuition. Je reviens... Hein. Vous allez à l'étranger, pour revenir, vous vous insérez dans une entreprise familiale qui, à ce moment-là, est en pleine... Le cœur du métier est en pleine révolution, il est contesté d'un peu partout. Donc, l'informatique, et là, vous auriez même pu tout de suite, vous voyez l'Internet. Parce que l'Internet va aller avec. Mais il y en a plein qui auraient pu se dire, bon, ben voilà, on met un peu sur informatique et puis je vais faire des belles photos en 3D ou autre. Mais c'est tout de suite, vous comprenez par l'intérieur de la publicité. Et c'est là, encore une fois, vous êtes l'inverse du survivaliste. Dire que vous comprenez qu'il faut tout diffuser et qu'Internet va être une extraordinaire façon de diffuser au monde entier toute cette inventivité.
Ouais. Attention, quand vous parlez de survivalisme, vous faites appel à un préjugé.
Ah bah le survivaliste est dans sa grotte. Voilà. C'est fait exprès pour qu'on sorte de ce préjugé.
Non, pour moi, le survivalisme, c'est des concepts qui sont, voilà, on en parlera certainement, qui sont aujourd'hui qui sont utiles, mais qui ne doivent pas nous enfermer, justement.
Ben ça
et l'Internet, pour moi, j'ai vu énormément de possibilités parce que, mettez-vous à la place d'une imprimerie qui a une agence donc en son sein, une agence de communication. On faisait des plaquettes imprimées pour aider les sociétés à se commercialiser. Voilà, toute société avait une plaquette plus ou moins importante, etc. Et je disais, si vous faites une plaquette papier, il faut que vous ayez un site internet. Achetez votre nom de domaine. Mais j'étais en fait souvent j'ai été précurseur, mais j'ai essuyé les plâtres parce que les sociétés n'étaient pas prêtes à apprendre le plat. Les utilisateurs ne savaient pas utiliser les navigateurs, donc c'était compliqué au départ. Il y avait plusieurs technologies qui apparaissaient. On n'avait pas les bons plugins. On essuyait les plâtres. Mais pour moi, c'est tout à fait logique. Et j'ai vu vraiment dans l'Internet l'avenir de la communication, incontestablement. Après, il y a certains imprimeurs qui ont pris le pas et qui ont ouvert, comme nous, une agence multimédia en leur sein, parce que les clients étaient identiques. Ensuite, le marché s'est structuré, et puis les agences multimédia ont pris le pas, bien entendu, sur tout ce qui est publicité imprimée. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des plaquettes, mais bon, à part des magazines comme Géopolitique Profonde ou d'autres, hein, je suis très attaché au papier. Hein. Le papier survivra, même s'il y a un clash ou un blackout total, on aura toujours le papier avec nous.
Mais ça, c'est important que vous le disiez, parce que justement, avec l'expérience qui est la vôtre, et beaucoup de gens ont douté sur le fait que le papier reste ou pas.
Mes livres sont en papier, ils ne sont pas en e-book. Moi, je ne peux pas. Déjà, je ne lis pas sur des tablettes. Il y a beaucoup d'avantages, c'est vrai, au e-book, c'est-à-dire, on me dit, oui, mais quand je pars en vacances, comme ça, je peux mettre plein de livres. Non, quand tu pars en vacances, déjà, tu choisis un ou deux livres et tu t'en contentes. Parce qu'en fait, quand on a trop de choix, en fait, on passe plus de temps à choisir ce qu'on va lire qu'à lire le livre qu'on avait choisi.
Par l'Internet, vous allez vous projeter à nouveau, même si cette fois-ci tout en restant à Marseille, mais il y a toujours cette envie d'explorer chez vous. Donc, le monde du mannequinat, le monde du luxe, la rencontre avec des chefs d'entreprise innovants, vous allez vous projeter à nouveau. Racontez-nous un peu toute cette période de votre vie, que beaucoup de gens vous suivent, Gilles Lartigot, mais je suis persuadé que beaucoup ne connaissent pas ces aspects-là de votre vie.
Quand vous m'avez sollicité, je ne sais pas si ça peut intéresser. Moi, je suis toujours discret sur ma vie, en fait, professionnelle, mais c'est vrai que c'est intéressant de...
L'enfant de votre génération, ouais. Et ça nous interpelle, parce que beaucoup de ceux qui nous regardent ont le même âge que vous et moi.
Très jeune, j'ai lu Richard Branson. Richard Branson, c'est un entrepreneur qui a créé Virgin.
Infiniment riche.
Aujourd'hui. Oui. Parce qu'il était, il squattait sur une péniche avant qu'il crée Virgin, qui signe les Sex Pistols et puis tous les groupes fabuleux, notamment avec Michael Field et Tubular Bells, avec cette fameuse générique de l'Exorciste. Hein, c'est Richard Branson qui a connu comme ça le succès de Virgin. Et je me suis intéressé surtout à sa biographie lorsqu'il parlait d'entreprise, ça c'était un petit peu plus tard, où il avait un concept qui était le small is beautiful. Oui. En fait, une entreprise ne doit pas grossir parce que sinon il y a une structure verticale, donc avec des strates, et puis on perd du temps, on est beaucoup moins flexible. Et donc lorsqu'une un secteur dépassait les 20 personnes, il est dupliqué. Et en fait, il faisait des petites structures à l'intérieur d'une grande structure et il était pour l'intégration. En fait. Et moi, comme j'avais déjà une agence de communication, je commençais à avoir des contacts dans la musique. On m'a proposé de faire de l'événementiel. J'ai rencontré... Alors là aussi, c'est toujours le hasard. En fait, notre vie est faite de rencontres. C'est les rencontres, en fait, qui nous montrent le chemin. Moi, je suis beaucoup les signes que m'envoie, en fait, la vie. Il faut rester aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, hein, un grand philosophe de notre époque. Je pense que je le vénère plus que Michel Onfray. Donc, Van Damme dit qu'il faut rester aware. Il faut rester à l'affût des signes en fait que nous envoie le destin et des personnes que l'on rencontre. Et au hasard en fait, c'était d'un voyage au Québec, mais là c'était plutôt un loisir parce qu'on était parti faire de la motoneige, parce que tout bon, je dirais, français qui va visiter le Québec en général va faire son petit parcours en motoneige. Donc je pars avec des amis et parmi ces amis là, il y en avait un qui avait fait fortune dans le bijou et qui m'a dit, écoute, il n'y a pas d'agence de communication spécialisée. S'il y en a une, mais bon, il est assez ringard, mais on aimerait que tu amènes ta touche, etc. C'était le début, en fait, aussi de cette bijouterie fantasy, notamment avec des bijoux en argent et avec des symboles de rock, des têtes de mort, etc. Donc ça, j'étais plutôt, je dirais, tendance.
Vous l'avez conservé un petit peu comme le professeur Raoult. Ouais. Hein,
alors, c'est pas le même. Ça, c'est Eddie. C'est là, en fait, la figure, donc, d'Iron Maiden, qui est un groupe de musique. C'est une bague que j'ai depuis quasiment 30 ans.
C'est vous qui lui avez...
Non,
il a aussi des bagues tête de mort, vous l'avez remarqué.
Ouais. Et ça, là, voilà, il était vraiment particulière.
C'est pour ça, on pourrait imaginer.
Avec ce groupe Iron Maiden, je vous raconterai ensuite la rencontre que j'ai faite avec Bruce Dickinson. Mais voilà, en fait, c'était des bijoux qui étaient tendance. Il y a une grande marque qui s'appelait Cromart à l'époque, qui était là aussi à Los Angeles. Et donc, j'ai importé un petit peu cette tendance rock, je dirais, dans le bijou. Et puis, j'ai créé une agence spécialisée dans le bijou, dans le luxe. Et comme ça, j'ai dupliqué les agences de communication pour travailler dans des domaines particuliers, parce que le bijou, c'est assez spécial. Il faut prendre les photos en macro. Il y a des techniques particulières pour présenter également les bijoux. Enfin, c'est fait par une histoire. En fait, c'était une histoire d'amitié qui est devenue une histoire après intéressante, parce que je travaillais avec un des plus gros groupes français qui s'appelle Histoire d'Or.
Ouais.
Et puis aussi également le groupe APM qui là a investi il y a maintenant quasiment 20 ans les supermarchés en Chine. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Chine? Mais Gilles, la Chine, c'est l'avenir, c'est plus gros que les États-Unis. Tu diras, le chinois, moi j'avais encore, tu vois, ce préjugé que la Chine, il y avait encore les charrettes et les bœufs, quoi, tu vois. Mais là, je les vois, en fait, ils sont quasiment, leur marque est en dessous de celle des plus hauts joailliers français. Très, très belle réussite française. Voilà, de très belles réussites françaises. Qu'on met pas, tu vois, assez en avant. Des réussites comme le... Alors je saute du coq à l'âne, excusez-moi Nicolas, mais
vas-y, vas-y. Voilà.
Par exemple le Hellfest, qui est le plus gros festival métal en France, qui a commencé quasiment il y a une quinzaine d'années, avec Ben Barbeau, qui a monté ce festival avec une association, c'est devenu un des plus gros festivals aujourd'hui au monde, avec plus de 300 groupes, j'irais centaines de milliers de personnes, qui est à Clisson, un petit village en Bretagne, on n'en parle pas,
non.
Si, le petit journal en parle. Et ils se moquent.
Ils
vont voir juste le côté un petit peu rigolo, voilà, ça boit beaucoup de bière, etc. Mais bon, c'est un erreur festival aussi, il y a peu de vandalisme, il y a la communauté métal est vraiment, moi, une communauté que j'aime beaucoup, même si je suis pas un spécialiste de cette musique-là. Donc il y a de belles réussites en France et qui restent un peu dans l'anonymat, voilà, comme cette société APM Monaco, il y a également le Hellfest, tout ça, et puis, c'est dommage parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment cette culture du succès. En Angleterre également, ils ont la culture du succès. Mais en France, on n'a pas cette culture-là. Pourtant, dans de grands entrepreneurs, voilà, que ce soit dans le luxe, avec Arnaud, etc. Bon, mais au niveau de de ceux qui sont précurseurs, de ceux qui ont des idées, qui sont avant-gardistes, et même ceux qui réussissent, alors pas en faisant du copy trading, hein, c'est pas les Instagrammeurs qui réussissent et qui vont nous faire rêver à Dubaï en se baladant sur des yachts. Hein. Bon, mes amis vivent sur des yachts, mais ils ont créé des sociétés avec des centaines de milliers de personnes, ils ont créé du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée. Ces gens aujourd'hui ne créent rien en fait. Ils créent aucune valeur ajoutée. Et ils font juste rêver sur les réseaux sociaux des plus jeunes qu'eux qui vont dire, ben moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie plus tard? C'est des professeurs qui me disent ça. Bon, moi, je veux faire un Instagrammeur. Oui, parce que je vais être comme, je sais plus, n'importe quel Instagrammeur à la mode. Et il veut vivre à Dubaï en faisant de l'argent sur le dos des autres, en vendant des produits qu'on n'a pas besoin. En fait.
Moi, mon expérience, le peu d'expérience que j'ai du hard rock, du métal, et de choses qui est un paradoxe, parce que de toute façon, beaucoup de choses dans la vie sont des paradoxes. Et d'ailleurs, j'écoute toujours AC/DC avant mes émissions de radio. Pourquoi? Parce que, étrangement, on dit, oh oui, alors ça va le mettre dans un état, il va s'énerver, il va être dans des états de colère. C'est l'inverse, étrangement, pour une raison. Et on dit ça des hommes en général, c'est-à-dire qu'écouter un peu de métal, un peu de hard rock, avant quelque chose, là où vous avez un stress naturel, normal, que vous pouvez avoir un trac ou autre, écoutez ça et vous allez, et tout va redevenir fluide. Alors qu'on s'imagine l'inverse, c'est incroyable. Là où le reggae, certaines musiques qui paraissent si cool... finalement, moi j'ai constaté, souvent créer des profils extrêmement violents. Et ça, je comprends, c'est un paradoxe. Le métal qui anime plutôt on peut penser est violent. Au contraire, ce sont des personnalités non violentes extraordinaires. Comment vous expliquez ce paradoxe?
Déjà, premier exclu, Nicolas Stoker. Écoute du AC/DC avant ses émissions, bah, bravo, c'est un joli choix musical. D'ailleurs, il passe cet été, hein, donc c'est Gérard.
Oui.
C'est Mathieu Drouot qui organise donc ce festival, pas ce festival, cette date. Je crois que c'est à Longchamp où il y avait deux hippodromes, j'ai peut-être peur de me tromper, en tout cas, c'est à Paris. C'est une date, je crois, qui est complète. C'est leur dernière tournée, bien entendu. C'est plus le AC/DC qu'on a connu. Donc moi, j'irai pas les voir. Je reste sur le souvenir que j'ai vu. Je les ai vus plusieurs fois en tournée. Pour moi, c'est pas du métal, c'est pas du hard rock, c'est de la musique tout court.
Ouais, ouais.
C'est la musique intemporelle. si un tant soit peu on est intéressé par la culture musicale. Moi, j'ai, voilà, en toute modestie, j'ai quand même une très bonne culture musicale.
Oui,
et je pense que ça fait partie aussi de notre culture générale. Et on apprécie ces groupes-là qui resteront pour moi intemporels.
Intemporels.
Oui, je pense.
Vous ne faites pas que du que de la PAO, vous ne faites pas que de la pub, vous ne faites pas que de la musique. Vous allez vous intéresser aussi au cinéma. Ça, c'est
un domaine d'ouverture
et d'investigation.
Ouais. Alors, le cinéma est venu par la musique. Parce que la musique, là aussi, j'ai été précurseur, puisque dès le, je crois, le 1er janvier 2000, on a créé un label donc, d'autoproduction des artistes, en fait, qui étaient rejetés par les maisons de disques, et de très jolis projets, mais en fait, qui ne rentraient pas dans, dans certaines chartes des directeurs artistiques et des maisons de disques. Et j'ai eu l'idée aussi de faire appel aux fans de ces groupes-là pour financer les albums. Alors, il y a eu, au fin des années 90, le premier, ça a été Radiohead, qui s'est comme ça soustrait des maisons de disques pour financer leur album. Ensuite, il y a eu un groupe anglais de rock progressif qui s'appelle Marion, qui encore aujourd'hui sont autoproduits, mais c'est des groupes aujourd'hui qui ont une audience mondiale, hein, qui sont maîtres de leur œuvre, qui distribuent leurs disques, qui sont maîtres de leur tournée, qui produisent leurs spectacles. Et donc j'avais cette idée, mais là aussi j'étais un peu trop, je dirais, novateur et un peu trop avant-gardiste. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ouais. Puisqu'à cette époque-là, je fréquentais Jean-Jacques Goldman, puisqu'on était dans un studio à Marseille, c'est un studio municipal qui s'appelle Hyperion, géré par un ami qui s'appelle Alain Battaglia, où là j'ai fait vraiment de très belles rencontres avec tout le gratin français. Mais celui qui m'a le plus, je dirais, impressionné, oui, par sa classe, par son talent, sa modestie, c'est Jean-Jacques Goldman,
oui,
qui est juste un homme exceptionnel. Se retirer début des années 2000, ça fait plus de 20 ans qu'il est parti, hein, au fait de sa gloire, parce que l'univers ne le correspondait plus, l'univers musical, je parle, hein, pas l'univers, voilà, spirituel, mais ça lui correspondait plus, il a préféré arrêter et ne plus ouvrir la bouche. C'est-à-dire, on ne l'a plus entendu se prononcer sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand je vois le nombre d'artistes qui nous ont bassinés pour le narratif, en nous incitant, hein, à faire ce que voilà, il fallait faire à l'époque, je me dis que ces artistes-là ont pas, ont plus de retenue, et Jean-Jacques Goldman a vraiment cette classe. En plus, c'est un auteur qui a été très souvent moqué, notamment par la presse rock. Et il est fondamentalement rock, je dirais, en tout cas dans ses racines, puisqu'il vient du blues, hein, il faut le rappeler. Oui. Il y a une excellente biographie qui est sortie sur Jean-Jacques Goldman.
Oui.
J'invite les auditeurs à le lire. Mais j'ai redécouvert, en fait, là, un personnage que je connaissais pas vraiment toute sa vie, mais en l'ayant côtoyé, c'était... voilà. Et Jean-Jacques Goldman a un fils qui s'appelle Michael Goldman, et quelques années après fait ce label, lui a créé My Major Company, qui est devenu une success story, parce que voilà, avec les connexions, je dirais, de son père, de son oncle, parce que voilà, le frère de Jonathan Goldman était le patron de la SACEM également.
Bon. Oui.
Bon, ils sont dans ce milieu-là, il y avait l'argent aussi nécessaire, le réseau. Ils ont fait My Major Company, qui est devenu le premier label d'artistes autoproduits, où il levait du 100 000 euros pour produire des artistes, à partir de rien. C'est une très très belle réussite, hein. Très belle réussite, mais j'ai continué sur ma lancée, où j'ai découvert en début 2000 le groupe Dagoba, qui est un groupe français. Là, quand même, on est sur du métal plutôt extrême. Et Dagoba existe toujours aujourd'hui, ils continuent à produire des albums, ils sont des professionnels, et Shouter est resté mon ami. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, je suis fier vraiment de les avoir découverts, de les avoir lancés. Ensuite, après, sur la scène internationale, ils ont fait leur bonhomme de chemin. Et en fréquentant donc ce milieu de la musique, un jour j'ai un ami qui vient et qui me dit: écoute Gilles, moi j'ai un label également musical. Lui, il était plutôt dans la dance, avec Scorpio Music, Scorpio Music, tu sais, c'est eux qui ont signé ce fameux groupe américain, le Village People.
Ah oui, oui.
C'est eux qui ont signé Village People.
Oui, oui.
Il faut savoir qu'en fait, que c'est des Français qui ont produit Village People à l'époque,
oui.
Hein. Ah oui, on pense que c'est un groupe américain.
Ah oui,
non,
oui.
Non. C'est Henri Bellolo, hein. Grand producteur quand même de dance, et voilà. Bon, bref. Et donc cet ami, il s'appelle Pascal Cobé, hein, m'a proposé, voilà, de de coproduire voilà ce film en disant bah écoute personne ne veut ce scénario, moi j'y crois, moi en plus j'ai des velléités de réalisation, enfin on était parti sur un truc complètement fou, on n'y connaissait rien quoi. Bah, on a commencé à trouver une personne qui nous a présenté au CNC, et là j'ai compris ce qu'était le CNC, c'est une réserve d'argent. Donc c'est le Centre national donc du cinéma hein, et qui va prêter en fait de l'argent aux producteurs à taux zéro. À taux zéro. Donc taux zéro. Ils veulent pas faire entrer beaucoup de monde.
Plus à cette époque,
Nicolas, parce que bon, il y a un fromage, donc le fromage ils vont le garder pour nous. Voilà. Et puis bon, on a réussi un petit peu, j'irai à gratter d'argent. On a levé après des fonds. Je suis allé voir ben, justement mes amis qui étaient dans le bijou, qui avaient beaucoup d'argent à l'époque. Alors quand tu dis je vais produire un film, bah, tu fais rêver tout le monde.
Mais quand tu fais quand tu dis tout... Ah, vas-y. Mais après, j'ai vraiment une question.
Je termine l'histoire de ce film, parce que c'est juste incroyable. Donc, je suis sur le plateau. Alors là, c'était la première télé de... Pas la première télé, quasiment les premières télés de Cyril Hanouna, quand il a pris le relais de Michael Young sur le Morning Live. Ouais. J'accompagnais un artiste qu'on avait signé qui s'appelle Terence Trent D'Arby. Peut-être que certains...
Ah, oui, ça me dit.
Oui, OK. Voilà. Wishing Well, etc. Bon. Donc et Terence Trent D'Arby avait un avocat qui est un avocat, bon, c'est souvent des avocats d'affaires, que ce soit les avocats anglo-saxons, sont des avocats d'affaires. En fait, ils mettent en relation les personnes. Et on savait que cet avocat travaillait également dans le cinéma, il avait des clients dans le cinéma, donc on a transmis je dirais le scénario voilà à cet avocat qui l'a transmis à d'autres acteurs, et puis là on a eu l'accord de DMX qui est un rappeur, mais qui est juste énorme aux États-Unis. Bon, il est décédé aujourd'hui, de façon assez dramatique, qui était anti-système, hein, des DMX également, je ne savais pas à l'époque. On a signé avec David Carradine,
oui.
Kung Fu, je pense que tu t'en souviens.
David Carradine, oui, je vois très bien. Oui.
Michael Madsen, David Carradine et Michael Madsen qui venaient juste de finir Kill Bill de Tarantino. On a signé avec Paul Sorvino.
Même et Monica Cruz. Et même la belle Monica Cruz.
Voilà, c'est pas Pénélope, hein, c'est
oui,
Monica,
mais,
c'est
oui,
la
sœur.
Bon, elles sont toutes les deux aussi mignonnes l'une que l'autre.
Exactement. Hein. J'ai regardé donc, les extraits du film.
Et on n'avait pas l'argent pour payer ces gens-là. On n'avait pas l'argent pour payer ces gens-là, donc ils se sont engagés avec nous, avec un pourcentage sur les recettes, etc., parce qu'ils étaient très motivés
after
par la production du film.
Non, pas After, Last.
Last Hour, donc c'est devenu Last Hour, qui est devenu ensuite une banqueroute, parce que le projet nous a complètement échappé. On est allé tourner à Pékin. Tu vois, on est tourné en Chine sur quasiment les anciens décors donc de Kill Bill, donc c'était avec les acteurs, c'était quelque chose d'incroyable. On a réussi à mener le film jusqu'au bout. Après, on l'a présenté, il nous fallait un distributeur. Mais quand t'as pas de réseau, ben, les gens viennent te voir. Enfin, les gens t'accueillent, mais ils ont les dents voilà, qui rayent le parquet. Et malheureusement, comme on n'avait pas tous les financements, le film nous a échappé. Et puis, c'est les producteurs chinois qui l'ont repris, qui l'ont saccagé, qui ont fait un montage horrible. Bon, il existe encore, le film. Mais bon, je vous conseille peut-être pas de l'acheter en DVD. Je suis pas très, très fier du résultat. Mais ça a été une aventure incroyable. Tu vois, une aventure avec des connexions, des rencontres. Et puis ça m'a bon j'ai perdu de pas mal d'argent dans cette affaire mes associés également qui étaient en coproduction par contre on a c'était une expérience qui est vraiment riche très très riche en tout cas d'enseignement.
Alors la question que je voulais te poser depuis tout à l'heure c'est que à un moment donné m'échappe le Gilles Lartigot qui est avec son père dans son imprimerie à Marseille, c'est-à-dire que voilà, il y a tout un tas de domaines, la pub, la musique, le cinéma, qui fait que j'arrive plus à te situer, à te resituer dans l'espace à ce moment-là, tellement ça part avec toi à cette occasion dans multiples univers. Est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là où comment tu te situais?
Ben je me situais en fait comme un entrepreneur. J'avais une holding avec un groupe de communication qui est devenu énorme avec plusieurs entités. C'est des choses que j'avais montées au début parce que je suis pas un entrepreneur en fait, je suis pas un financier. J'ai pas forcément de l'argent au départ. J'ai par contre le savoir-faire, la vision, l'intelligence aussi.
Normalement, une start-up, c'est ça, hein, ça crée un concept. Et après, par contre, ça doit trouver ses investisseurs.
Bah, oui, j'ai rarement en plus trouvé de l'argent. On a toujours auto-financé, parce qu'on avait une entreprise quand même qui était, notamment l'imprimerie, qui était assez rentable. Donc on avait des fonds à investir. Jamais été un très gros client en fait des emprunts bancaires. Donc à ce jour aujourd'hui, je suis assez fier d'avoir aucun crédit et j'en veux pas. Bon, ça me limite bien entendu dans les développements, mais voilà, je serais plutôt plus confiance avec des investisseurs privés que des banques. Parce que aujourd'hui, je sais comment créer l'argent, je connais le fonctionnement bancaire, voilà. Donc je veux pas m'y adonner. Et donc j'ai créé en fait un groupe avec de multiples entités. Tu as parlé bon, de la partie événementielle. J'ai même créé aussi une agence de mannequins.
Oui, Mannequina.
Voilà, j'ai sélectionné les futurs en fait égéries de la marque Guess. On avait loué un bus, on faisait le tour des villes.
Ça m'étonne
en bus,
pas, Guess.
Voilà.
Bien
oui, ça leur a plu ce côté aussi rock'n'roll. Mais en fait, ce groupe-là, à un moment donné, ben, comme je suis pas un dirigeant né, voilà, j'ai fait rentrer des personnes qui ont causé ma perte. Voilà, qui ont causé ma perte en s'associant avec moi sur une partie de mes entreprises, en faisant des détournements de fonds qui m'ont complètement dépassé, qui ont déplacé les experts comptables, les commissaires aux comptes, qui ont dépassé tout le monde. Et je me suis retrouvé tout seul face au tribunal du commerce pendant 3 ans. Et sans rien, plus de maison, plus de voiture, plus d'argent.
T'habitais toujours
fois,
Marseille.
J'étais bloqué sur l'autoroute, j'avais plus de quoi payer le péage. Donc ça.
T'étais marseillais ou parisien?
Oui, je vivais encore sur Marseille. Ouais. Je vivais encore sur Marseille. J'ai travaillé sur Paris, mais j'étais toujours en fait basé sur Marseille. L'entreprise familiale a toujours été basée à Aubagne. Donc j'ai rarement quitté la région. Voilà.
T'étais marié?
J'étais marié à l'époque, ouais.
Et alors, après ces moments difficiles que tout homme connaît dans sa vie, tout homme vrai...
Tu perds tout, en fait. Tu perds tes amis, tu perds ta femme, tu perds tes relations qui étaient là par intérêt. Et puis bon, c'est vrai que moi, je faisais rêver les gens. Je les ai invités au Midem à Cannes, les ai invités aux Energy Awards.
J'imagine l'énergie, les gens qui devaient s'accrocher à cette énergie.
On était quasiment là, quoi. Il y avait Mick Jagger qui était là, qui faisait le pont de terre. On était là, on disait, ouais, tire-lui le pantalon, tu vois. Bon, on était... J'étais assez large, toujours été généreux, puis ça me fait plaisir.
Je préfère offrir que de recevoir.
Mais je me rends compte que voilà, beaucoup m'ont laissé tomber. Après, au niveau personnel, ça a été pareil. J'ai caché tout ça à mes parents. En fait, et mon père, lorsqu'il a découvert, je pense, a accéléré son cancer. Il est mort dans l'année qui a suivi. Mais je ne pense pas être véritablement la cause, mais peut-être j'ai accéléré son départ. Et ça, je sais pas.
Évidemment. Et tu vas te reconstruire à ce moment-là. On peut, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut parler de la cause animale, parce que la cause animale, en fait, elle te vient quand tu es encore au sommet.
Oui, c'est juste avant la chute. Hein. La chute, c'était en 2007. Donc, juste avant la chute, j'ai... un soir avec ma future épouse, ma femme, donc ça fait 20 ans maintenant qu'on se connaît.
Aujourd'hui,
et on regardait en fait une émission 30 millions d'amis, tu vois, sur les animaux. Ouais. J'ai toujours aimé les animaux. Et là, on a vu des galgos en fait qui étaient des levriers qui étaient torturés en Espagne. Puisque c'est en fait des chiens qui servent à la chasse, mais non pas pour les chasseurs, parce que bon, c'est cher d'acheter un fusil, des cartouches, etc. Un chien, c'est beaucoup moins cher. C'est chasse donc le lièvre, le lapin, c'est des chiens donc qui font partie de la race des levriers. C'est souvent des personnes assez peu, je dirais, fortunées qui en ont. Hein. C'est y a pas mal de gitans également. Et le problème, c'est qu'ils ont des meutes. De plusieurs chiens, à la fin de la saison de chasse, ils gardent juste celui qui a le mieux chassé, enfin le chef de meute. Et les autres, en fait, ils les abattent, mais dans des conditions horribles. Alors, j'en discutais avec Hugo Jiménez, donc Papacito, j'avais fait une entrevue avec lui, justement, sur le cas des galgos. Il me dit qu'aujourd'hui, parce qu'il vit en Espagne, c'est plus le cas. Alors, je veux bien le croire. En tout cas, la situation, c'est sûr qu'elle a évolué depuis 20 ans. Moi, à mon époque, c'est quelque chose qui m'a révolté parce que ces chiens-là, ils étaient jetés dans des puits, ils étaient piqués à l'eau de Javel, ils étaient battus à mort, ils étaient pendus, mais avec la position du pianiste, c'est-à-dire ils étaient pendus dans une forêt, on laisse juste les deux petites pattes, tu vois, et ils agonisent pendant des semaines. Enfin, c'est horrible. Tout ça parce qu'ils ont offensé, si tu veux, ils ont blessé l'amour propre de leur maître. Et j'ai trouvé ce documentaire effarant. Et à la fin, donc, ils nous ont montré des associations qui allaient chercher des galgos là-bas et qui les rapatriaient en France pour les faire adopter. J'ai pris contact avec l'association. Comme on avait des moyens au niveau de la logistique, la communication, je connaissais pas mal de gens, notamment et aussi dans la presse. Avec Valérie, donc on est parti faire une enquête d'investigation. Ça a été notre première enquête d'investigation pour aller voir comment étaient élevés les galgos, comment ils étaient traités. Et il y a eu un camion d'Emmaüs qui est arrivé, alors dans un état, je me suis dit, il va jamais arriver à faire les 2000 km et tout. Ben, ils sont arrivés. On a réussi à sauver 10 galgos, mais parmi des centaines. Et bon, c'était quand même les 10. Et puis régulièrement, il y a des convois comme ça qui vont les chercher. Donc j'étais confronté donc là à la maltraitance animale. Oui. Et avec ça, sur notre chemin, bon, on a rencontré une personne qui travaillait, qui était partie prenante de l'ALF. L'ALF, c'est Animal Liberation Front. C'est une association qui est même considérée comme terroriste aux États-Unis. Et il n'y a pas de hiérarchie, en fait. C'est des gens qui se mettent en rapport. C'est surtout pour aller libérer des chiens qui sont utilisés pour la vivisection. Et cette personne me dit, parce que je m'intéressais déjà à l'alimentation, vous voyez, je faisais la culture physique, j'ai toujours été passionné par la nutrition. Il m'a dit, mais tu manges quand même beaucoup de poulet, je ne mangeais pas forcément beaucoup de viande. Il me dit, tu sais comment sont élevés les poulets? Ben, oui, en fait, en batterie, tu vois, mais je ne savais pas ce que c'était. Il me dit, ça t'intéresse de voir les élevages? J'ai dit, ben oui, banco, puisqu'on avait commencé, si tu veux, par les galgos, on s'est dit, ben. Et c'est là où j'ai découvert l'horreur. C'est là où j'ai découvert, déjà, le premier élevage, c'était un élevage porcin. Donc les porcs restent enfermés pendant 6 mois.
On peut pas commencer.
Dans des espaces, ils ont moins d'un mètre carré chacun, ils ont dans des enclos de 15, ils mangent là où ils chient, ils sont sur caillebotti, donc c'est une infection, c'est une horreur au niveau de l'odeur, ils voient jamais le jour. Ils sont nourris avec des produits OGM. En fait, même les éleveurs aujourd'hui qui produisent du cochon dans des élevages intensifs ne consomment pas la propre chair des animaux qu'ils élèvent. Aujourd'hui, on mange de la viande qui n'ont pas des animaux, certes, qui ont souffert, mais si on met ça de côté, c'est la viande qui est pas forcément bonne pour notre consommation, en tout cas pour notre santé. Il y a beaucoup trop d'oméga 6. Il y a des antibiotiques à foison parce qu'il y en a 20% qui meurent. Même avec des antibiotiques, il y en a 20% qui meurent avant leur date d'abattage. Et quand je pense aujourd'hui qu'on consomme 25 millions de porcs par an en France.
25 millions.
Et il y en a 95%, voire 98%, qui sont produits dans des élevages intensifs. Il y en a très peu. Ben tiens, je voudrais rendre hommage à un ami, un camarade qui s'appelle Pierre-Guillaume Mercadal, qui a un élevage qui s'appelle la ferme des cochons laineux à Montjoie. Une grande histoire autour de ça. Il y a une grande cagnotte puisqu'il a été obligé de, d'euthanasier tout son cheptel avec des aléas et des conflits assez forts avec un député et notamment le maire de son village. Donc il y a très très peu d'éleveurs comme lui. J'ai jamais été contre en fait les élevages traditionnels. Je pense que la cause aujourd'hui animale, et je pense que les végans font beaucoup plus de mal que de bien.
Oui.
Parce qu'en fait, ils culpabilisent, ils veulent aujourd'hui qu'il n'y ait plus d'abattoir, ils veulent que nous ne consommions plus de viande, mais ça c'est un combat qui est perdu d'avance. Ça fait beaucoup plus de mal. Moi j'ai été séduit en fait par cette dynamique-là, donc un moment, et puis encore maintenant, je consomme plus de viande, mais je veux pas en parler, je veux pas faire du tout de prosélytisme par rapport à ça.
Ouais.
Mais j'ai toujours été contre l'élevage intensif. En fait, il faut qu'on consomme moins de viande. Et moi, j'ai été séduit par une personne, un musicien extraordinaire. Tu me parlais de rencontre. Il s'agit de Devin Townsend, que j'ai reçu pour mon émission Heavy Metal Food, où j'allais rencontrer des rockstars, où je leur parlais de leur mode alimentaire. Parce que tous les journalistes arrivaient, alors, votre dernier album, votre dernière tournée. Moi, j'arrivais... Qu'est-ce que vous mangez sur la route? Comment vous faites pour votre diète et tout? Regardez surpris, tu vois. Et puis quand tu parles d'alimentation, tu rentres un peu plus dans l'intimité des
personnes. C'est évident.
Et donc chacun a adoré les interviews. En plus, j'en ai fait beaucoup en fait. Et j'ai rencontré Devin Townsend qui lui a fait son coming out en disant qu'il était végétarien, quelqu'un qui faisait en fait une musique vraiment extrême, hyper violente. Qui consommait pas de viande. Ses femmes ne le savaient pas. Et moi, ça m'a surpris. Et il m'a dit, je te donne l'exclusivité. J'ai dit, mais... Et c'est grâce à lui que Hit est devenu un succès. Je vais t'expliquer pourquoi. Après, il y a Antoine Decaune, mais bon, je vais t'expliquer.
Explique-nous déjà, voilà.
Excuse-moi pour le tutoiement, mais...
Mais on peut.
Écoute, on se tutoie à l'extérieur, donc c'est plus facile pour moi.
Mais merci. Il paraît que sur le plateau, les... Voilà.
Je sais, il paraît, mais bon, on fait on abstraction, préfère, moi, voilà, voilà. C'est naturel, en tout cas, je peux pas, moi, gommer mon naturel. Donc, Devin Townsend, je lui dis, mais... Comment ça se fait, Devin? Pourquoi tu fais pas la, tu n'en parles pas, tu es pas en colère, tu veux pas être militant? Parce qu'au départ, moi, hit, je voulais vraiment que ce soit un coup de poing, tu vois, je voulais faire en couleur avec les images, ça saignait, il faudrait que je, vraiment, j'avais cette colère en moi que les gens ne soient pas au courant de l'atrocité qu'on faisait aux animaux d'élevage.
Alors que c'est du noir et blanc, l'hymne, là.
C'est pour ça aussi. J'ai atténué cette douleur. Mais, Devin Townsend m'a dit, mais c'est pas la peine de militer. Séduis les gens. Donne leur envie d'en savoir plus. Vas-y avec l'amour, vas-y avec de la générosité, vas-y avec de... Donne leur envie. Mais moi, quand je vois des végans qui aujourd'hui insultent ou sont vraiment en colère contre ceux qui mangent la viande, mais j'ai pas envie, ils me donnent pas envie, en fait. Moi, il faut me séduire. Il faut... Qu'est-ce que font nos politiciens? Ils nous séduisent. Bon, pas tous.
Non.
Mais bon, ils ont quand même les mots pour nous embobiner et puis nous vendre leur salade, d'accord? Donc ils sont toujours sur la séduction. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai adouci, en fait, mon propos dans Hit, qui était un propos beaucoup trop violent, avec, je te dis, ces images couleurs. Avec Valérie, on s'est dit, bon, on va les basculer en noir et blanc. Et puis ça a donné, voilà, ça a donné un livre qui ne juge pas les autres, qui ne fait pas de prosélytisme, qui donne quand même des informations, avec beaucoup de recettes. J'ai pas voulu... Je dirais le classer dans les livres végans, parce qu'en plus, toutes mes recettes que j'ai fait à l'époque, parce que je me suis là aussi, quand j'ai fait des enquêtes dans le milieu de l'élevage industriel et intensif, du jour au lendemain, Nicolas, j'ai plus manger de viande. En voyant les horreurs que voyais au niveau des poulets, des bœufs, des vaches qu'on abat, bon, je te passe l'abattage rituel, etc., bon, bref. Mon corps a refusé de manger de la viande. C'est pas que la viande est nocive à notre santé. Ceux qui disent que la viande donne le cancer, c'est des conneries, en fait. Même la charcuterie, il faut pas en abuser. La viande ne donne pas le cancer. Il faut manger de la viande de bonne qualité. Et la viande de bonne qualité, c'est les petits éleveurs. C'est une viande qui coûte plus cher. Donc on peut pas en consommer tous les jours. Sauf si on s'appelait le Klaus Schwab et qu'on a son cuisinier particulier, bien entendu. On mange du bœuf de Kobe à la cantine, tu vois. Donc, cette façon d'aborder les choses m'est venue de Devin Townsend, qui était aussi une rencontre extraordinaire. Donc, tu vois, en fait, c'est normal que tu sois un peu déboussolé, parce que tous mes univers se mélangent. Moi, je pense qu'on forme un tout. Mais comme en France, on a l'habitude de mettre des personnes dans des cases, aujourd'hui, on doit, quand tu as demandé, en fait, à ton technicien de mettre le auteur, donc on doit définir une personne. Et moi, c'est vrai que c'est un terme qui me restreint, mais voilà, il faut passer par là. Je suis une personne complexe et avec tout mon vécu et tous les milieux dans lesquels je suis intervenu, j'ai fait comme ça, tu vois, des liens. Et c'est vrai que la maltraitance animale m'a amené sur cette personne de l'Animal Libération Front, où on est allé en plus terminer le financement participatif d'un film qui s'appelle ALF, Animal Libération France, qui a reçu quasiment une vingtaine de prix, 8 meilleurs films dans tous les festivals internationaux. On est même allé à Toronto, puisqu'à l'époque, on vivait donc au Québec avec Valérie, recevoir le prix. Nous, en plus, tout petits investisseurs, tu vois, on s'est dit un jour avec Valérie, bon, on n'a plus trop d'argent, mais bon, à Noël, on va faire au lieu de s'offrir des cadeaux, on va faire un cadeau à l'ALF, et puis on va finir de terminer le financement de ce film. Et ce film, en fait, m'a également fait découvrir tout l'envers du décor de la maltraitance animale. Et ensuite, ça a donné hit. Lorsque je suis parti au Québec, je n'avais plus rien. Avec Valérie, on a fait un état des lieux. Qu'est-ce que tu aimes faire?
Raconte justement ton départ à ce moment-là
J'étais en faillite personnelle, quoi. Je n'avais plus rien.
Personnel,
oui. Les banques m'ont tout pris. Ouais. Oui, parce que j'étais en fait caution personnelle. Ce qui est fantastique en France, en fait, quand on est entrepreneur, peut-être que certains d'entre nous, d'entre vous, le sont. On n'a pas de garantie. J'ai jamais touché de chômage. J'ai jamais eu d'allocation. Lorsque je suis parti du Québec, hein, plusieurs années, quand je suis revenu, j'ai eu un grave accident. J'étais hospitalisé. J'avais pas de carte vitale. On a failli me laisser dehors. Hein, quand je vois que la moindre personne aujourd'hui qui arrive en France sans papier, il a des cartes vitales et puis il a un petit crédit de 1 500 euros pour s'acheter un portable. Je me dis, attends, moi je suis français, j'arrive, j'ai cotisé pendant quoi, 25 ans.
Mmh. Oui, ils n'ont rien.
C'est
non,
pas
non,
les
non,
petites sommes que j'ai cotisées.
Les vaches salées du système.
Donc quand tu te retrouves en fait entrepreneur, bah, tu te retrouves une main devant, une main derrière, tu n'as plus rien. Tu n'as plus aucune garantie. Donc moi j'étais garanti bien sûr perso, alors comme il y a eu des faux et usages de faux, moi je pensais avoir remboursé tous les crédits, mais il se trouvait que non. Donc voilà, tout a disparu, tous les biens que j'avais en fait en nom propre ont disparu. Donc voilà, sans rien, donc on est parti au Québec, la Valérie m'a dit qu'est-ce
alors,
que tu vas me faire ?
Raconte un peu le Québec justement.
On est parti, voilà, on est parti à Montréal parce que Valérie a vécu 15 ans là-bas lorsqu'elle avait 20 ans.
Ah oui.
Et puis quand on est arrivé on s'est dit, bon, on a une petite réserve d'argent, et puis qu'est-ce qu'on en fait quel est notre projet de vie? Parce qu'il faut bien payer sa vie. Parce qu'on ne la gagne pas, sa vie, on la paye. On passe plus de temps voilà, à la gagner qu'à la payer qu'à la gagner. Hein. Ouais. Mais elle m'a dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Moi, j'aime entreprendre. Aujourd'hui, on n'avait plus les possibilités d'entreprendre, hein, donc on était grillés de partout, tu vois, quand tu allais voir Gilles Lartigot sur les banques, tout s'affichait en rouge, tu vois, donc voilà, plus le moins de crédit, puis ça m'allait très bien comme ça. Donc voilà, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé l'alimentation, j'adore la musique. Elle m'a dit, bah, tiens, on va essayer de faire un truc par rapport à ça. On a fait les premières entrevues, Heavy Metal Food, la première.
Ah, c'est là.
Ça a été un groupe, voilà, c'est un groupe qui me tient à cœur. C'est un groupe qui s'appelle Cataclysm, avec Maurice Iacono, qui m'a accueilli sans me demander pour quelle chaîne tu travailles, combien tu fais de vues, etc. Chose qu'on te demande en France, mais au Québec, ce qui est fantastique. J'ai même croisé Dave Grohl et les Foo Fighters dans la rue. En fait, les musiciens de là-bas se promènent tranquilles parce qu'ils sont pas agressés en fait, dans la rue, hormis par les Français qui sont en vacances. Et j'en faisais partie, entre guillemets, je suis pas en vacances, mais bon. Ouais. Bon, j'y suis allé quand même avec beaucoup de retenue. Donc cette première entrevue a donné naissance à Heavy Metal Food. Je sentais que j'avais quelque chose, en fait, en tout cas d'unique. On m'appelait le Heavy Metal Cook, là-bas. Et ces entrevues, j'ai pris plein de petits extraits. En fait, ces entrevues font le fil conducteur de mon premier livre de hit, tu vois, avec ces petites punchlines que me disent chaque musicien. Tiens, on parlait de Marillion avec Steve Hogart, qui est le chanteur de Marillion. Marillion, tu sais, ce groupe autoproduit anglais. Et lorsque je les ai rencontrés, c'est avec Heavy Metal Food que j'ai rencontré toutes mes idoles. Ah oui. J'ai vu Alice Cooper, premier concert que j'ai vu à 16 ans, où j'étais parti à un quart d'heure du début, parce que mon père me disait « À quelle heure ça finit ?» J'ai dit « Papa, ça commence à 8h30 ». Mais bon, 8h30, c'était le concert à l'ancienne, ils arrivaient 3h en retard. Il avait commencé à 11h, j'ai dit « Ça va finir 11h, 11h30 ». Et puis 11h15,
c'est là que ça commence.
Donc j'étais parti, je me souviens très bien, c'était à l'Hippodrome, tu vois, à Marseille. Donc un artiste que j'ai revu en plus avec des conditions privilégiées, quoi, tu vois.
Oui.
Et avec Heavy Metal Food, en fait, je leur préparais des recettes. Et je préparais des jus, en fait, j'étais très branché jus à l'époque, à l'image du groupe.
T'as gardé un peu, ça, un peu,
et oui, les jus, notamment avec le jus jaune, curcuma, citron, gingembre, qui est fantastique. Mais donc, je faisais des jus avec des étiquettes, avec à l'effigie du groupe, ou alors avec une annotation sur leur album. Et c'est quelque chose, chaque fois qu'il est marqué, bon, c'était juste des échantillons, tu vois. Et j'avais fait, je me rappelle, pour Alice Cooper, le Raw Blood, tu vois, le sang cru, qui était à base de canneberge, de cranberry, et de gingembre, et de lait de coco. Et donc, j'ai rencontré Kiss également, qui est un de mes groupes aussi fétiches. Et donc, j'ai rencontré, voilà, ces gens-là, un peu sur le tard, avec Heavy Metal Food. Tu vois, donc, c'est vrai que ces univers se mélangent et tout se rejoint. C'est pour ça que lorsqu'on doit rencontrer quelqu'un, on le rencontre. Voilà, si ça se fait, ça doit se faire.
Oui.
Parce qu'il y a j'ai reçu énormément de refus. En France, j'essaie même plus, parce que là, en plus, avec notamment les idées que je défends, je suis assez mal vu dans le milieu culturel. Tiens, on pourrait en parler du milieu culturel dans la musique, hein, la gauche s'est accaparée.
Ouais,
alors, pas la gauche que j'ai connue, toi et moi, hein, c'est plus la gauche du travail, hein, c'est la gauche des valeurs. Hein, donc ces valeurs, bon, que je ne défends pas.
D'unis,
mais apparemment, ça ne plaît pas, à l'univers musical, en tout cas, même la presse musicale. J'avais un contrat qui a sauté parce que la personne n'a pas apprécié un live que j'avais fait sur Instagram, où je me positionnais concernant la transition des élèves mineurs, des personnes mineures. Hein, bon. Et donc voilà, c'est un milieu, c'est vrai, que la gauche s'est accaparée, et donc j'ai eu quelques portes qui étaient fermées, contrairement au Québec, où c'est beaucoup plus ouvert, en fait. Il y a moins de freins au Québec qu'en France. Donc, on a reçu énormément de refus. Et quand je recevais un refus, je me disais, au lieu d'être frustré, en me disant, oh, c'est un reçu, moi, je voudrais faire une interview, je veux faire cette interview, bah, je me dis, bon, c'est peut-être pas le moment où je dois pas la faire. Je suis assez fataliste par rapport à ça.
Alors, donc, t'as vécu plus de 2 ans au Canada. J'ai presque envie de te poser la question, pourquoi tu n'y es pas, pourquoi tu n'es pas resté là-bas ?
Alors, j'ai vécu à plein temps plusieurs années. Ensuite, je faisais, lorsque Hit est sorti, c'était 1er janvier 2014 en France. Et donc, en janvier,
j'ai fait... Ça faisait 3 ans à peu près que tu étais au Canada ?
C'est ça, je suis parti en 2010. Ouais. Je suis parti en 2010. Ouais. Et je me rappelle la première... alors, show conférence, là aussi, j'étais un peu, je dirais, un précurseur. Parce que quand il a fallu défendre le livre... Moi, je ne suis pas un sachant, je ne suis pas le professeur Henri Joyeux derrière sa table ou avec, tu vois, la carte de je suis un médecin. Donc, je me dis, j'ai pas forcément l'envie d'être derrière, tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise quand je suis assis sur un plateau de télé. Mais moi, je suis mieux debout, voilà, et puis j'ai le sens du spectacle. Parce que j'ai été musicien, j'adore la scène, j'adore le public, partager avec le public.
Mais là, t'inquiète pas, tu t'en sors très bien aujourd'hui.
Ok, merci. Et là, on s'est dit, avec Valérie, bon, montons un spectacle. Mais comment tu montes un spectacle? On n'a pas de matériel, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'infrastructure. Pas grave, on va se débrouiller tous les deux. Et tous les deux, en fait, on a monté les show-conférences. Le premier, c'était « On est ce que l'on mange ». J'en ai fait 5 de suite. On a fait plusieurs tournées. On a fait quasiment 300 dates en 5 ans. Mm-hmm. Et la toute première, Nicolas, ouais, ça a été à Paris. Je m'en souviendrai toute ma vie durant, c'était à l'église Sainte Rita.
Ah bah oui, je me souviens.
Bah, tu te souviens de
ça? Ah oui, je me souviens de t'avoir vu ce jour-là, voilà. dans le public.
L'église Sainte Rita, quand même, je ne sais pas comment j'ai atterri là-bas. C'était un lecteur, c'est même pas un lecteur, je ne sais même pas s'il avait le livre à l'époque, mais quelqu'un qui me suivait avec Heavy Metal Food, en tout cas. Il m'a dit, je connais quelqu'un qui pourrait vous recevoir. Est-ce que ça vous gêne pas? C'est dans une église. Oh, moi qui avais retrouvé la foi, tu vois, récemment, je me suis dit, ah non, au contraire, mais je suis arrivé, tu vois, donc, avec nos petits bagages, nos chiens, parce qu'on a toujours nos deux cavaliers King Charles, tu vois, avec nous. Et heureusement, à Sainte Rita, les animaux peuvent rentrer.
Ah, bah, oui, là, vraiment.
Dans les églises,
on peut
heureusement.
Même les bénir.
Magnifique. Malheureusement, cette église n'existe plus. Voilà. On était en pleine campagne. Donc, on a participé aussi avec la recette, parce que là aussi, on a rempli les bancs de l'église. Grande surprise pour moi. Et le prêtre, donc, pour les répétitions, je lui ai dit, mon père, où est-ce que je me mets? Il m'a dit, bah, derrière l'hôtel. Je me suis dit, attends, je vais faire la... Mais ce que tu sais pas, mais toi qui aimes CDC, c'est que j'avais prévu une introduction avant que je rentre en scène avec Hells Bells.
Oui.
Ben.
Oui, mais il pouvait le mettre. Moi, j'ai même mis la Marseillaise à un moment donné sur leur là où on entend les cloches.
Elle, on peut. Attends, Nicolas, c'était pas prévu.
Le 15e peut l'entendre.
Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je n'y avais pas pensé, tu vois. Et voilà. Alors, je pense qu'il y avait deux enfants de cœur qui étaient carrément morts de rire, tu vois. Il y avait des amis du groupe Black Rain qui étaient là également. Alors, comme j'étais un petit peu tendu, en fait, j'avais laissé l'album, j'avais oublié de l'éteindre, mais il était vraiment en fond sonore. Et je voyais 4 têtes de chevelus, tu vois, qui faisaient ça pendant tout le show conférence. Donc, en fait, ils étaient aussi absorbés par la musique. Alors, je me rappelle, j'avais mes petites fiches, j'avais mon petit vidéoprojecteur, mais ça le faisait quand même, ça a été les débuts. Et ensuite, on a fini, voilà, dans des théâtres, etc., où j'ai donné vraiment la pleine puissance, je dirais, de mes performances.
Et tu t'es pas contenté d'écrire un livre, vraiment, ce livre, ça a été ton existence, ta vie. Hit,
les 10 dernières années, oui, avec ces show conférences vraiment m'ont tenu à cœur. Et lorsque on faisait donc après les allers-retours, parce qu'on avait quand même une grosse actualité en France, on tournait énormément en France, donc on vivait 6 mois de l'année, au Québec, et puis 6 mois en France, jusqu'à cette fameuse année 2020 où on est rentré. Là, je me rappelle, c'est le jour de Noël. En décembre 2019, à cause d'une intoxication à l'eau. Mais bon, ça, je te réserve cette anecdote pour notre émission.
Ouais, oui.
On a dû revenir, donc en France, l'eau était empoisonnée.
Ah oui.
Et lorsqu'on est revenu, ben en fait, on n'est plus reparti. Parce que ben en mars 2020, il y a eu la fermeture aussi des frontières.
Ah oui, et avant mars 2020, en fait,
on faisait continuellement
Marseille et le Québec.
Ouais.
D'accord.
On vivait donc moitié-moitié, on a vécu, je dirais, le meilleur des deux mondes, parce que c'est très reposant de vivre au Québec, et c'est très excitant de vivre en France. Parce qu'en France, tu te sens vivant.
Toujours aujourd'hui.
Ça bouge, oui.
Tu le ressens encore aujourd'hui.
Oui, Oui. Encore plus aujourd'hui. Parce qu'on ne se rend pas compte. J'en parlais avec une amie qui habite Londres. Ouais. Et qui me disait, tu sais, en Angleterre, oui, il y a des lanceurs d'alerte. Mais en France, mais vous êtes légion, en fait. On est un esprit, on a cet esprit révolutionnaire que certains veulent éteindre. Mais il est en nous. Il est en nous, cet esprit révolutionnaire. Et je pense que tout un chacun, on l'a. Il faut juste raviver cette flamme, se réunir, faire fi de nos différences, parce qu'il y a plein aujourd'hui d'ego. Il y a beaucoup dans cette, je dirais, dans cette opposition, je ne vais pas dire droite ou gauche, l'opposition, je dirais. Pourquoi on ne se réunit pas sur ce qui nous rassemble? Arrêtons de nous prendre la tête ou le chou sur nos différences. Faisons fi de nos différences. Rassemblons-nous. Et bon, aujourd'hui, je ne vois aucun leader qui a cette capacité ou cette mesure, je dirais, d'ouverture et cette volonté. Donc, c'est le pouvoir aussi qui nous qui clive et qui, comme ça, va nous...
Et nous l'attendons séparer, tous, voilà. Néanmoins. Donc, nous l'attendons tous, néanmoins. Bah, il y a un point aussi que j'aimerais que tu développes, c'est qu'au travers HIT, même si tu as l'honnêteté, la... comment dire, j'ai retrouvé mon mot, mais en tout cas, tu le dis, tu n'es pas médecin, mais par contre, tu vas rencontrer des médecins. Tu as cette modestie, voilà, c'est le mot que je cherchais, de dire je ne suis pas un médecin. Mais par contre, tu vas faire des rencontres incroyables. Chez les médecins, et là, tu vas développer toute une partie de ce que tu dis depuis 20 ans maintenant.
Alors, il y a une personne qu'on a rencontrée un peu sur le tard, hein, parce que c'était, il me semble, en 2011 ou 2012. Un professeur émérite, marseillais, une espèce de professeur tournesol, un bel homme avec les cheveux blancs, sur un frisé, professeur Pierre-Marie Martin, paix à son âme. On est arrivé dans cette conférence qui avait lieu dans un hôpital à Marseille, parce que mon épouse était allée visiter sa gynécologue, hein, et qui lui avait parlé de nos projets, voilà, d'écriture dans l'alimentation et tout. Et cette gynécologue lui a dit, mais attendez, il faut absolument que vous alliez voir la conférence de ce monsieur qui a lieu dans 2 jours. Nous, on partait trois jours. Donc elle avait lieu 1 jour avant qu'on parte. On aurait pu dire, bon, allez, tiens, on va s'inscrire. On s'est inscrit, ils nous ont répondu de suite. On a compris pourquoi ils nous ont répondu de suite, parce qu'on était les 2 seules personnes externes à l'hôpital. C'était une réunion plutôt interne, tu vois. Et donc on s'est dit, bon, on a donné notre adresse en plus. Alors vous êtes les Québécois, ils nous ont installés. Tu vois, il n'y avait que des médecins autour de nous. On devait être quoi, une vingtaine. Et là, je vois le professeur Pierre-Marie Martin avec toute cette, sa stature là, et sa bonhomie, qui nous explique ce que sont les perturbateurs endocriniens. Ah, mais quoi? Alors je note, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai compris peut-être 20% de ce qu'il a, parce qu'il s'adressait quand même à des professionnels. Et je me dis quand même, pollution environnementale, comment ça on va devenir stérile, comment ça, ça se trouve dans les plastiques, donc dans l'alimentation, c'est quoi ces gaz? Quoi, le gaz moutarde, c'est devenu des engrais? Quoi, Bayer, Monsanto? Ouh là là, il a jeté, si tu veux, des scuds. Et là, je me suis dit, il faut qu'on aille le voir. À la fin de la conférence, je pense qu'il s'attendait un petit peu à ce qu'on aille, tu vois, le voir. Ah, c'est vous les Québécois, alors vous faites quoi? J'ai écouté, monsieur Martin, enfin, professeur, non, tu appelles moi Pierre-Marie, hein. Bon, Pierre-Marie, écoute, j'ai pas compris grand-chose, tu sais, moi, j'ai pas fait d'études de médecine. Tant mieux, c'est un bon point. Voilà, il dit, ensuite, tu fais quoi? Mon épouse, voilà, on est en train d'écrire un livre sur l'alimentation, écoute. Il faut qu'on se rencontre. Et là, belle amitié, belle rencontre.
J'ai vu une vidéo justement avec un échange sur la notion de cancer où il dit des chiffres implacables.
Voilà, il dit que l'alimentation peut ralentir ou accélérer en tout cas un cancer sur deux, la puissance aussi, le pouvoir des aliments, comment se prémunir du contact avec les perturbateurs endocriniens, quand même, qui se transmettent in utero, c'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui qui va être en contact du plastique, qui va utiliser le micro-ondes avec des produits toxiques, etc., va contaminer son enfant. Et son enfant, les risques aussi du perturbateur endocrinien, c'est que ça va développer de l'obésité, des maladies chroniques, enfin voilà, et puis surtout, ça nous rend stérile. Tu vois, on est quasiment infertile aujourd'hui, en tout cas de moins en moins, on le voit autour de nous, il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal comme ça à procréer. Et donc, cette rencontre, elle a été Ben, cette rencontre a fait aussi le succès du livre, parce que ça m'a donné la garantie aussi, et puis ça m'a donné cette carte, cette crédibilité d'avoir quelqu'un avec moi quand même, parce que le professeur Pierre-Marie Martin, il faut dire, français, marseillais, qui a refusé à la Légion d'honneur, enfin on l'a pas refusé, on lui a pas donné, proposé surtout, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment, qui était intègre. Comme je pense peuvent l'être le professeur Perron ou le professeur Raoult, je pense qu'il était dans cette dynamique-là. Le professeur Martin, malheureusement, il est parti donc en 2018 avant que qu'il y ait eu cette affaire-là. J'aurais vraiment aimé l'avoir à mes côtés, tu vois. Mais je pense qu'il aurait été du même avis que nous, en tout cas.
Il y a d'autres professeurs de médecine donc, avec lesquels tu as
alors,
pu
nouer
aussi.
Mais, non, c'est le seul.
C'est le seul.
C'est le seul. Après, j'ai vu le professeur Debré, mais bon, ça, c'était sur le plateau de la chaîne parlementaire. C'est plutôt moyennement passé. Oui. C'est des gens qui te prennent de haut, si tu veux. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Moi, je suis un auteur indépendant. Ah, ouais, d'accord. Et donc, Pierre-Marie Martin, quand même, a participé à la découverte des perturbateurs endocriniens. C'est quelqu'un, en fait, qui a la passion. Alors, il était abonné au Monde. Bon, il me disait, le Monde, c'est fantastique et tout. J'ai Pierre-Marie, le Monde, quand même, regarde les investisseurs qui appartiennent au Monde. Bon. Il dit, non, mais d'accord, faut arrêter de me parler de politique.
Ça a évolué avec
ça,
le temps.
Voilà aussi, la politique, moi, je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Pas du tout. C'est arrivé avec mes enquêtes dans le milieu de l'agroalimentaire et de l'alimentation. Je me dis, attends, on nous bassine, on nous raconte des conneries, on nous ment. Donc, j'ai décrypté, voilà, les éléments de langage, tout le mécanisme, l'ingénierie sociale. Et puis après, je suis rentré de plein pied dans la vie, en tout cas, la politique citoyenne, pas la politique de politicard. Hein. Et donc, Pierre-Marie avait découpé plein d'articles dans Le Monde, il avait toutes ses archives, d'ailleurs, qu'on a récupérées, on a beaucoup de choses, en fait, il avait fait des recherches sur l'alimentation, et c'est ces recherches-là, alors, il a fallu que je vulgarise un peu ses propos, et justement, il me dit, c'est ta qualité, parce que comme tu ne fais pas partie du Sérail, tu vas pouvoir transmettre à tout le monde. Voilà, j'essaye d'avoir un discours qui est peut-être un peu plus, je dirais, simple que ne l'est ma pensée, parce que j'ai plutôt une pensée complexe. Mais donc j'essaye de délivrer des messages simples. Et Pierre-Marie me disait, c'est un atout, tu n'es pas fait pharma ou médecine, au contraire. Voilà.
Mais justement, on peut arriver sur les grands principes que tu développes, mais justement, tu fais preuve jamais de fondamentalisme, d'extrémisme, c'est ce qui fait ton humilité aussi, je pense. On peut parler du cru, on peut parler du jeûne, alors, on peut parler de toutes ces choses-là.
Je vais te raconter le cru.
Mais commençons par le cru, puis on parlera du jeûne après, parce que alors, je pense que tu as des choses à dire là-dessus aussi.
Oui. Hein,
où il y a une énorme polémique aussi. Mais le cru, alors.
Alors, le cru, en fait, quand on a fait toutes ces enquêtes avec Valérie, du jour au lendemain, moi, je consommais très peu de viande. Mais on consommait encore de la volaille, etc. Du jour au lendemain, on est devenu végan. C'est-à-dire que, bon, végan, en plus, j'aime pas employer ce mot, on est devenu végétalien. Parce que végan, ce n'est pas un mode alimentaire. Végan, c'est un combat politique, voilà, qui vise à abolir l'exploitation qu'on fait aux animaux. Tous les animaux. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement l'alimentation. Donc, on est devenu végétalien parce que les enquêtes nous ont profondément marqués. Moi, j'ai des images que je vais garder sans doute à vie. Quoique j'ai une personne aujourd'hui qui, justement, en côtoyant ce Pierre-Guillaume Mercadal, je vois l'amour qu'il porte aussi à ses cochons. Les végans me disaient, comment tu peux supporter aujourd'hui un éleveur? J'ai dit, mais c'est un éleveur traditionnel. Ces cochons, ils vivent entre 2 et 3 ans. À l'extérieur, ils bouffent des glands, etc. Et il les abat pas pour son plaisir. Il nourrit des gens, quand même. C'est pas la gourmandise quand on mange la viande. On nourrit des gens. Et je dis aussi aux végans, mais toi qui ne veux plus manger de viande, heureusement que tes grands-parents, ils en ont mangé, hein, parce que sinon, tu serais pas là à nous faire la leçon. Faire des leçons de morale. Hein. Tu vois, donc il faut remettre l'église à sa place. Voilà, au milieu du village, comme on dit. Donc, pour en revenir à la viande, donc on avait ce refus, on s'est dit, bon, même les œufs, c'est pareil, tu vois. Le lait, bien sûr, c'est pareil, mais il nous reste quoi? Et là, j'ai fait la connaissance donc d'une entreprise qui s'appelait Crudescence, je crois qu'il doit encore exister. Et c'était des jeunes en fait qui revenaient de Bali ou de Haïti, je sais plus. Enfin, bon, c'est vrai que dans les îles, c'est peut-être un peu plus facile de se nourrir de fruits et de légumes, tu vois. Mais bon, t'arrives au Québec, l'été, le printemps, l'été, c'est fun. Il fait très chaud au Québec. Hein. Pour ceux qui veulent visiter le Québec, si vous allez à Montréal, il fait du 40 degrés. Hein, l'été, faites attention. Moi qui crains la chaleur, je me suis dit, j'ai été surpris le premier été, tu vois. Donc c'est facile Quand tu es dans les îles, etc., peut-être un peu plus facile, mais quand tu as ensuite, nous, on a habité en Mauricie.
Avec un climat plus continental.
Où on a eu des hivers quasiment de 6 mois, on a eu du moins 50. Va te nourrir la queue de cru. C'était compliqué. J'ai perdu 10 kilos. J'ai pas mis ma santé en péril, en tout cas, mais c'était compliqué. On a pris beaucoup de plaisir, en tout cas. C'était compliqué parce qu'on trouvait pas les bons aliments. Alors, il fallait qu'on se fasse 300 kilomètres, tu sais, pour aller à Montréal, faire des courses une fois par semaine, revenir. Bon, là, le bilan carbone, tu vois, je pense qu'on a fait du mal à la planète. Donc, voilà. Ben, c'est l'autre sujet. Et donc, on s'est nourri, voilà, de végétaux et j'ai pris des cours. Et je suis allé voir, parce que Crudescence, ensuite, c'est devenu un peu une marque à la mode. Ils ont embauché Larocque, qui était un hockeyeur. Voilà, il y a eu un peu de buzz, tu vois, autour du cru. Mais je me dis, le cru, quand même, au Québec. Bon, ils ont eu vraiment leurs 2-3 années où ça marchait très fort. Les restaurants étaient excellents. D'ailleurs, je ne sais pas si tu... Il y en a beaucoup à Paris, de restaurants, entre guillemets, végans ou végétaliens.
Peut-être.
Je t'invite à essayer, parce que c'est succulent, hein. Après, on mangeait comme ça tous les jours et tout le temps.
C'est
ça, peut-être, tu vois. Ouais. Donc, j'ai aimé, tu vois, cuisiner le cru. Mais il faut savoir, après, que le cru n'est pas compatible avec tout le monde. Parce que le cru, il faut savoir que c'est beaucoup de fibres. Les nutriments, ils sont dans la plante. La plante, il y a des fibres, il faut déjà mâcher, il faut pouvoir digérer aussi. Et le problème, c'est qui bascule de suite au cru, ne digère pas. En fait, les aliments, c'est sûr que dans le cru, tu as 100% des aliments. Mais si tu en absorbes que 20% et que tu vas éjecter tout le reste, ça sert pas à grand chose, hein. Il vaut mieux cuire à la vapeur, ouais, préserver un maximum d'aliments, de nutriments, ouais, et que tu digères tout. Il faut privilégier, en fait, l'assimilation.
Bien sûr.
Plutôt que, parce que l'argument du cru, c'est ça, hein. C'est pourquoi vous faites cuire les aliments? Vous allez tuer les aliments, vous allez tuer les nutriments. Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi on fait des soupes? Parce que les soupes, c'est vrai que les minéraux et les vitamines vont se dissoudre, donc vont être cuits dans les... vont sortir, alors, en fait, des légumes.
Ouais.
Mais ils restent dans l'eau du potage. Donc, quand
et tu
fais la soupe, tu manges bien l'eau de la soupe. Donc, soit mixée ou pas mixée. T'as la préférence, toi? Tu es plutôt soupe mixée?
Non, mixée.
Tu fais pas des soupes?
Non, moi, je préfère...
C'est que la soupe, moi, je la mange tous les soirs.
Je sais.
Depuis des années.
On a déjà
Valérie
fait des émissions là-dessus.
Arrête de dire que tu manges la soupe tous les soirs, on va se foutre de ta gueule.
Je suis désolé. Que moi, j'en mange jamais.
J'ai un gros travail à faire sur Nicolas. J'ai un gros travail à faire.
C'est sûr.
Mais donc, je bois de la soupe aussi dans des mugs, tu vois. Tu peux la boire même à température.
Ça,
en tout cas, c'est ton bol de légumes. On fantasme tous sur le... On aime bien le V8, tu sais, le V8, là, ce mix de légumes qui est immonde, qui est plein de sel, etc. Faites-vous une bonne soupe. Vous prenez 1,5 kg de légumes variés. Elle est simple, la recette. Hein. Tu coupes tout en petits carrés. Mmh. Tu prends un litre et demi d'eau que tu fais bouillir dans une grande marmite. Tu jettes tous tes légumes. Tu couvres à feu doux, 15 minutes. Voilà, ta soupe, elle est faite. Ta soupe, elle est faite 15 minutes.
J'adore quand
il faut 15 minutes pour couper. Il faut 15 minutes pour couper les légumes. Mais là aussi, quand tu coupes les légumes, souvent, j'interviens chez des personnes, j'ai pas de matériel. Donc moi, j'amène mon matériel, hein. J'ai ma planche, si tu veux, qui pèse au moins 3 kilos, qui est un ami qui me l'a offert, qui est en bois d'olivier. J'ai mes couteaux, des couteaux qui ont 10 ans, hein, qui viennent en plus d'une marque Ikea. Tu vois, c'est pas des super couteaux, hein. C'est pas des couteaux japonais, hein, que j'aiguise, des trucs à 5 euros, tu vois. Et quoi, donc, je me régale. Je suis un survivaliste. J'utilise le couteau, tu vois, le truc. Mais moi, le couteau, je l'utilise tous les jours, tu vois. Je suis pas le couteau avec, oh, putain, on va m'agresser dans la rue. Déjà, couteau est un mauvais moyen de défense, hein, en tout cas. Donc, moi, j'utilise le couteau, je me régale, tu vois. Et puis, ça me permet de me concentrer sur ce que je fais. Et surtout, la soupe, je la fais pour 4-5 jours à l'avance, tu vois. J'en congèle même, tu vois, des fois. Mais pour en revenir, non, n'évacue pas la soupe comme ça. Je te dis la soupe. Il faut faire de la soupe. Voilà, et consommer de la soupe, pourquoi? Parce que c'est riche en minéraux, ça hydrate énormément, et on nous dit qu'on ne mange pas assez de légumes. Donc le secret, c'est la soupe. Je veux réhabiliter la soupe.
Voilà. Bah, écoute, en tout cas, le message est passé, hein, aujourd'hui. Tu dis quand même, il faut manger du vivant. Donc le vivant, comment est-ce qu'on peut manger du vivant si c'est une bête en effet morte? Alors ça, toi, t'as réglé le problème, mais pour ceux qui en mangent de la viande ou le cuit, alors, le vrai que le cru, ça donne l'impression que c'est plus vivant que le cuit.
Bon, je suis un ancien publicitaire quand même, Nicolas. Et en plus, je suis marseillais, donc j'exagère un peu. Mais c'est pas un terme qui vient de moi, hein, donc j'ai entendu beaucoup, voilà, il faut manger vivant, manger le vivant. C'est, en fait, c'est des aliments qui n'ont pas été dénaturés,
alors, voilà.
Qui ont préservé toutes leurs ressources au niveau des minéraux, etc.
Le vivant, c'est l'eau.
Il y a la germination,
aussi,
voilà. Par exemple.
Et puis c'est toute l'eau qu'il y a dans les...
Ah, l'eau, on pourra en parler, hein, l'eau, il faut la filtrer absolument, hein, que vous ayez des filtres à charbon ou alors de l'osmose inverse, ne buvez pas de l'eau.
Ça, c'est important. Ouais, si
c'est vrai qu'il y a les polluants aujourd'hui, mais le principal polluant de l'eau, c'est quoi, Nicolas ? C'est le chlore. Hein. Le chlore est un poison, tu le sais. Alors, c'est vrai que c'est à des doses infinitésimales. D'ailleurs, c'est intéressant, le chlore. Avant, c'était, je crois, 0,1%, en tout cas, ou millilitres, enfin, peu importe. Oui. C'est 0,1, on ne va pas dire les indices de mesure. 0,1, c'est passé à 0,3.
Ah oui, comme par hasard. Oui.
Après les attentats du 11 septembre. Ah. C'est passé à 0,5, 5 fois plus que la recommandation officielle d'il y a 20 ans, avec le Covid. C'est étrange, non ? Parce qu'il y a des risques de contamination avec l'eau. Sinon, moi, je suis devenu un paranoïaque de l'eau. Je ne t'ai pas raconté, parce que on est revenu du Québec, on habite une maison
empoisonnement,
où l'eau, elle était empoisonnée, en fait. Ouais. On avait des plaques rouges qui sont sorties, on a des problèmes de peau depuis lors.
En fait,
des matières fécales.
Oh.
En fait, ils faisaient des travaux dans ce lotissement. En fait, on s'était rapproché de Montréal, on avait quitté la Mauricie, etc. Ils venaient de sortir, on est resté juste 2 mois dans cette maison. Et en fait, on est resté dans cette maison, on est allé dans cette maison pour s'empoisonner, certes, pour prendre conscience que l'eau, c'est très important, et surtout pour nous dire, votre place n'est plus ici, les amis, retournez en France. Moi, je le vois comme ça.
Ah, eh bien, oui, enfin, oui.
Le vois comme ça également.
Sûrement.
Et donc, lorsqu'on s'est rendu compte de cette intoxication, je suis allé... Enfin, on avait des doutes. On avait des plaques après la douche. L'eau était hyper chlorée. Alors, on avait loué. Le propriétaire nous disait, c'est pas grave. Nous, on tire l'eau le matin, et puis le chlore s'évapore. Mais quand même, je n'ai pas tiré l'eau le matin, puis boire le soir, puis on aurait dit que tu rentrais dans une piscine quand tu rentrais dans la cuisine, tu vois. Déjà, ça nous avait mis la puce à l'oreille. Mmh. Ensuite, on a fait sympathiser avec des voisins et tout. Ils avaient tous des problèmes de peau. Tout le monde faisait, alors, ceux qui n'avaient pas de lave-vaisselle, bon, tout le monde a des lave-vaisselle au Québec, hein, tu vois, mais bon, ils passaient l'eau, des fois ils faisaient la vaisselle, ils avaient des gants. Il y en a qui avaient des psoriasis, tu vois, des maladies de peau. Il y avait des bébés aussi qui avaient un problème, donc qui étaient partis à l'hôpital avec une maladie de peau. Je leur ai dit, mais c'est l'eau. Et tout le monde me disait, ben non, l'eau, elle est contrôlée par la ville. La ville nous dit que c'est bon. Non, non, c'est pas l'eau. Qu'est-ce que tu nous racontes, maudit français, quoi. OK, c'est pas l'eau. Ben, Valérie, on s'est dit, on va faire des tests, on va consulter un laboratoire. On a demandé à un labo donc, de la ville de Montréal qui nous disait... que en fait, on ne pouvait pas faire des tests. Un citoyen, un individu ne pouvait pas faire un test, il fallait passer par la ville. Oui. Comment ça, tu passes par la ville ? J'ai dit, c'est quoi ? Donc on a pris nos échantillons, on les a envoyés à Québec. Là, ils ne nous ont pas demandé où, quoi, comment. On a eu les tests qui sont revenus quasiment une semaine après. J'ai dit, c'est un peu long. Et les personnes nous ont dit, oui, mais les tests, il faut au moins 4 jours, pour ça décante, etc. Bon, bref. Rappelle-toi ça, 4 jours. Donc les tests arrivent. Donc, impropre à la consommation, vous ne douchez pas avec. Wow, ça vient de là, donc. Là, donc, on fait appel au propriétaire qui nous dit, non, il n'y a pas de problème. Alors, branle-bas de combat, il y a les services de la ville qui arrivent. Alors, comme ça, vous avez un problème d'eau qui se passe. Mais oui, on a ces tests. Ah non, ces tests ne sont pas valables. J'ai dit, écoutez, prenez l'eau, faites le test vous-même. Prenez l'eau, ils font le test, ils reviennent. Non, regardez, c'est bon.
Ah.
Mais ils reviennent 24 heures après.
Ah oui, alors, normalement, c'est
24 heures. Vous n'avez pas analysé tout ce qu'on doit analyser, les trucs, non, mais il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc, on a pris nos clics et nos claques, on est parti. Il y avait des travaux qui ont dû faire bouger les canalisations et des matières fécales. Mais il faut savoir que dans la ville de Montréal, quasiment tous les ans, il y a des ruptures de la normalité, notamment par rapport à l'eau. Pendant un jour, 2 jours, 3 jours, des fois, ils interdisent un certain secteur de Montréal, parce que les canalisations, elles sont vraiment, quelquefois, un peu désuètes. Puis avec les intempéries, ça joue également. Donc ils interdisent de même de se servir de l'eau, même de prendre des douches, etc. Donc il y a un problème avec l'eau, et c'est là où on a commencé à enquêter sur l'eau, notamment tout ce qui est matière fécale, les résidus médicamenteux, bien entendu, parce que, par exemple, la pilule contraceptive que prennent les femmes, elles en synthétisent qu'une partie. L'autre partie, elle va où ? Elle va dans les eaux usées. Après, bien sûr, les eaux usées sont retraitées, etc.
Mais il en reste.
Elles sont rendues,
non, mais il en reste.
Retournées dans la nature, les nappes phréatiques, etc. Donc aujourd'hui, on a des résidus d'hormones qui nous rendent stériles. Mais ça fait partie donc des perturbateurs endocriniens. Après, je dirais, ça m'affole pas tellement, mais moi, j'ai vraiment une paranoïa, peut-être, mais autour du chlore. Je me dis que le chlore, il a cette fonction de rendre l'eau saine en tuant les bactéries.
Ouais.
Et toutes les bactéries. Il va pas faire le tri de bonnes bactéries. T'as les bactéries pathogènes et les non-pathogènes. Hein, non-pathogènes, c'est les bactéries
que tu as
dans l'estomac, dans les intestins, dans ton organisme, si tu veux, pour digérer. Mais si tu bois de l'eau chlorée, elles vont attaquer, le chlore va aussi détruire certaines parties de tes... Et j'ai remarqué, moi, en m'occupant des sportifs, notamment certains sportifs de haut niveau, j'ai remarqué que ceux qui consommaient beaucoup d'eau, et notamment quasiment que de l'eau de ville, avaient tous des problèmes de digestion, des problèmes gastriques. Parce qu'ils buvaient entre 4 et 6 litres d'eau par jour, puisqu'on est à Marseille, qui a fait 30 degrés, que les gens s'entraînent à l'extérieur, donc ils suent énormément, ils consomment énormément d'eau. Donc quand tu consommes comme ça un verre de temps en temps, quoique là c'est l'eau que je t'ai filtrée, donc tu n'empoisonneras pas, moi je ne bois plus de l'eau du robinet, je ne bois plus de l'eau chlorée, j'ai toujours ma petite gourde au co, tu vois, donc je me filtre le truc. C'est...
Et tu ne bois pas l'eau minérale en bouteille à cause des perturbateurs endocriniens, j'imagine, non?
Je pouvais boire de l'eau en bouteille, on peut boire de l'eau bien entendu, mais l'eau minérale, pareil. L'eau minérale, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que il y a des minéraux dans l'eau. Mais ces minéraux, c'est des minéraux non organiques. C'est de la pierre. C'est des minéraux que notre corps ne synthétise pas. On ne nous l'a pas dit. Quand on nous a dit buvez, éliminez, ben, tu bois et tu vas aux toilettes. C'est pas buvez, vous allez avoir du calcium, des minéraux.
Il n'y aura rien de tout ça. Voilà.
Tu viens de synthétiser un petit peu, j'exagère aussi, je fais encore mon marseillais. Mais ce sont des minéraux non organiques. Tandis que la plante a cette fonction de transformer les minéraux non organiques en des minéraux organiques. Comme les mammifères également, lorsqu'on mange leur viande.
Mais l'eau, elle n'est pas là uniquement pour donner, elle est là aussi pour retirer, pour prendre. Il y a tout cet aspect-là dans l'eau. Hein.
Ce qui est le plus important dans l'eau, ce n'est pas ce qu'elle apporte. Mais c'est ce qu'elle emporte.
C'est ça.
Voilà. Donc, mais bon, il ne faut pas boire aussi de l'eau déminéralisée, des eaux qu'on met dans des batteries de voiture. Hein. Faut pas, voilà. Il faut utiliser, il y a plein aujourd'hui d'accessoires. C'est du charbon actif donc, qui est activé. Ça, c'est la nanofiltration. Et cette nanofiltration a la particularité d'arrêter ces mini-particules qui sont les perturbateurs endocriniens. Et le chlore.
Et le chlore, ça, c'est...
Surtout.
Les aliments, aujourd'hui, il faut les percevoir comme de véritables alicaments. Ça va au-delà même du fait de bien se nourrir. Ça nous guérit. On peut guérir. L'eau peut nous guérir sous certaines, peut-être, dynamisations. Enfin, moi, je le crois globalement, c'est possible. Et l'alimentation en elle-même, elle guérit.
Moi, je ne serais pas aussi affirmatif.
D'accord.
Je ne pense pas qu'il faille employer le mot guérir, parce que l'alimentation, en tout cas, participe à notre bonne santé. C'est pour moi l'élément essentiel à notre bonne santé, mais pas que. On est malade aujourd'hui parce qu'on ne fait pas assez de sport. On ne fait pas assez, pas de sport, parce que moi, la culture physique, c'est pas un sport. Donc, mais j'en fais tous les jours, pourquoi? Parce que la plupart du temps, je reste assis à écrire, donc à travailler. Donc aujourd'hui, depuis les années 70, les métiers du tertiaire ont explosé. Donc on est tous plus ou moins assis derrière un bureau, un ordinateur. On fait pas assez d'efforts physiques. Et c'est pas bon pour nous. Il faut faire un effort physique tous les jours. C'est pour ça qu'on dit, je rigolais quand j'entendais les personnes, oui, marcher plutôt que de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. Oui. Oui, incontestablement, oui. Faites un maximum d'efforts physiques. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette société de l'effort. On est cette société du paraître, du divertissement, du confort. On est là pour se reposer, voilà. Donc, il faut faire de l'effort physique. On ne fait pas assez d'efforts physiques. Donc, on mange mal. On mange une nourriture qui est plus adaptée à nos physiologiques. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pas le but de l'entretien. Donc, également, on en parle très peu. On a un décalage avec le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est de très belles images que je vois là, des géopolitiques profondes. Il y a l'éclipse, il y a le jour, la nuit.
Oui.
Tout ça, en fait, ça fait partie du rythme circadien. Donc, c'est le jour, en fait, on va avoir ce cortisol qui va se déclencher, qui va nous permettre d'être éveillés, d'avoir voilà la pêche, comme on dit. Mmh. Et puis, il y a la mélatonine qui va arriver lorsque le soleil tombe. C'est l'hormone du sommeil, où on va comme ça. Voilà, je simplifie au maximum. Hein. Mais aujourd'hui, on est complètement décalé. C'est-à-dire, quand on rentre, on va déjà allumer son poste de télévision. On va manger beaucoup plus tard qu'avant. Au Québec, l'avantage, c'est qu'on mange dès 18h. Hein, entre 18 et 19h, on mange. Donc, on se couche plus tôt et on se lève aussi plus tôt. En fait, on est beaucoup plus calé. Et ça, je l'ai vécu dès... Je m'en suis rendu compte, en fait, parce que quand j'ai tout perdu, j'ai perdu surtout le réveil. Et ça, pour moi, c'était... Ça, c'est le vrai luxe, si tu veux, te réveiller sans le réveil. Mais ça, c'est juste magique. En fait, le réveil, déjà, te casse ta journée. Mmh, tu sais pas quand tu te réveilles. Et le sommeil, pff, chaque fois tu me fais ouvrir des cases, là j'ai l'impression de digresser.
Non, mais okay. Le sommeil, à mon avis, là tu vois, tu touches un point.
Le sommeil, en fait, il y a différentes phases. Il y a le sommeil léger, le sommeil donc profond, le sommeil paradoxal, voilà. Et lorsque tu te réveilles en phase, par exemple, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, notamment paradoxal, s'il est très court, si là le réveil te le casse, on a cette sensation, hein. Moi, je me suis levé à 5h du matin, gelé, j'espère oui. Voilà, être assez explicite, mais c'est dur pour moi, parce que je me suis réveillé avec le réveil, j'ai plus tout l'habitude. Nicolas, ça fait 15 ans, j'utilise très peu le réveil, sauf pour prendre le train à 6h du matin, en courant, parce qu'il était en retard, donc je me suis jeté dans le TGV, en fait, je me suis dit, putain, ça y est, c'est bien, la journée parisienne commence, tu vois. et donc, ça te met un peu en vrac, tandis que quand tu te réveilles naturellement. Il ne faut jamais dormir dans le noir total. Il faut toujours laisser les volets un petit peu ouverts.
Pourquoi ?
Pas complètement ouverts, mais c'est la lumière qui te réveille.
Ouais.
La lumière... notre.
Il faut rester donc dans ces fameux rythmes-là.
Oui, mais on ne peut pas.
Bah non.
Ça, c'est utopique aussi. Moi, je peux me le permettre. Moi, je peux me le permettre parce que j'ai jamais eu de patron. Mais je me levais, tu vois, voilà. D'ailleurs, je me levais beaucoup plus tard à l'époque, parce que je me couchais beaucoup plus tard. J'étais en agence de com, on faisait des charrettes à 2-3 heures du matin. Donc, pas avant 9-10 heures, j'émergeais, tu vois. Aujourd'hui, je me lève beaucoup, beaucoup plus tôt, et je me réveille naturellement, surtout. Et quand tu as un rythme de vie régulier, tu te couches plus ou moins à la même heure, tu te réveilles plus ou moins à la même heure. Mmh. Ton corps retrouve, en fait, cette dynamique, cette normalité, cette résilience. Et malheureusement, la vie moderne nous a cassé ce sommeil. Donc, on se couche beaucoup trop tard et on se réveille avec un sommeil donc, qui peut être altéré avec le réveil. Et surtout, on ne dort pas assez.
Alors, on ne dort pas assez, c'est-à-dire...
Combien tu dors ? Tu dors d'heures par
mois. Moi, pour être bien, en deçà de 6 heures, c'est compliqué. Il faut que je dorme 6-7 heures.
C'est pas assez. Voilà. En général, c'est 8 heures. Ouais. Ah oui, mais c'est beaucoup. C'est bon,
on a un président qui, paraît-il, dort 3-4 heures. Et beaucoup de journalistes, d'ailleurs, qui le connaissent, disent qu'il ferait bien de dormir un peu plus.
Ah, il ferait bien d'arrêter certaines substances aussi, qui sont excitantes. Donc,
qui l'empêchent de dormir.
Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un sommeil peut-être plus court, parce que le sommeil, c'est également la qualité aussi du sommeil. Mm-hmm. Tu vois et très souvent, la qualité du sommeil est due aussi à un rythme de vie qui est dénué de stress, etc. Je ne pense pas que ce soit le cas d'Emmanuel Macron. Mais il y a des personnes aussi, comme j'ai fréquenté Bernard Tapie, par exemple, qui se vantaient de dormir très très peu. C'est vrai, y a des tempéraments. Mais en général, on doit dormir autour des 8 heures. Et très peu de personnes aujourd'hui dorment 8 heures, tu vois.
Très rare.
6 heures, 7 heures. Quelquefois, le week-end, on fait la grasse matinée. Mais on n'a pas besoin de faire la grasse matinée. Le sommeil ne se récupère pas, en fait. Donc après, c'est notre corps qui prend le relais, en fait.
Et si on s'endort à 10 heures, on peut se réveiller à 6 heures. Ça fait 8 heures.
Bien sûr, bien sûr.
C'est peut-être le meilleur, d'ailleurs.
Bien sûr.
Se réveiller à l'aube.
Qui, aujourd'hui,
profiter de l'aube.
Tu vois,
et personne.
Ceux qui se lèvent tôt aussi.
Ce qui fait qu'on ne profite plus de cette aube. Moi, quelques fois où j'en ai profité, j'avais un rendez-vous médical, il fallait que je me déplace un peu à être 7h, 7h30 sur la place ou une analyse de sang. Et là, on découvre un monde que je connais pas du tout. Parce que, en effet, je me couche fort tard et je me lève tard. Et c'est un émerveillement, l'aube, c'est un émerveillement. On le perd complètement, ça, c'est sûr.
C'est vrai que l'aube, c'est un émerveillement, mais
plus encore que le coucher.
Ça, c'est, si tu veux, c'est d'être, de correspondre en fait à ce rythme circadien, et d'avoir. Avant, on n'était pas aussi collé aux écrans.
Ah non.
Tu vois, les écrans, il y a cette lumière bleue, voilà, qui peut altérer aussi notre perception et puis nous exciter. Et puis on vit, comme tu l'as dit en introduction, voilà, on est en guerre, donc voilà, forcément, c'est anxiogène. Hum? Tu vois, on nous fait vivre dans la peur. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça.
Le stress oxydatif, c'est la pire des choses.
Pourquoi ? Parce que le stress, en fait, génère du cortisol. Ouais. Tu as le bon cortisol que tu génères le matin pour te réveiller et être en forme. Ouais. Tu as le mauvais cortisol, c'est celui quand tu rentres dans ta voiture, tu reçois les coups de klaxon, quand il y a des piétons qui traversent, etc. Voilà. Ça, c'est le stress de l'énervement. Ouais. Regarde les métiers que nous faisons aujourd'hui. Je suis pas un fataliste, je suis pas quelqu'un qui dit à chaque fois c'était mieux avant, parce que je pense qu'on est tous les enfants de notre génération. Mm-hmm. On vit une époque qui est différente, donc nos enfants trouveront ça normal, ce qu'on vit aujourd'hui. Mais nous avons le recul. Et dans le passé, il y a 100 ans, 8 personnes sur 10 vivaient en campagne. On travaillait aux champs. Et dans les champs, il n'y avait pas, ce stress-là. Le stress, bien sûr, des récoltes, tout ça, mais on travaillait les pieds dans la terre, tu vois. On n'avait pas le stress avec les ondes, la 5G, toute l'électricité que l'on touche toute la journée. D'ailleurs, un conseil avant
ça,
de vous coucher.
Il y a une pollution électromagnétique, tu es d'accord avec ça?
Bien sûr. Mmh. Avant de vous coucher, mettez-vous pieds nus, allez marcher dans la terre. Alors, si vous êtes dans un immeuble, marchez sur le sol, ou voilà. Mais ouais. Déchargez-vous de l'électricité. Et surtout, n'utilisez pas votre téléphone dans le lit.
Oui.
Parce que vous vous chargez d'électricité, en fait. Et quelquefois, même, on allait... Je te le dis parce que des fois, j'ai cette mauvaise habitude, malheureusement. Mmh, des fois, je suis en retard, comme je réponds à tout le monde. C'est moi qui gère mes réseaux sociaux, tout ça. J'ai des petits picotements dans les mains.
Oui.
Et ça, c'est l'énergie que t'envoies à ton téléphone.
Ah bon ?
C'est vraiment un truc. En plus, j'ai un truc comme les vrais Instagrammeurs, tu vois. Un truc qui t'éloigne un peu du téléphone. Mais pour pas avoir le contact de la peau, très mauvais d'écouter aussi le téléphone collé à l'oreille. Mmh. Bon, à l'époque, je téléphonais à l'époque de l'agence quasiment 4-5 heures par jour. J'avais le téléphone qui brûlait, j'avais des maux de tête.
Ouais.
Je m'en rendais pas compte, tu vois, de tout ça. Donc, pour en revenir à notre état de mauvaise santé, tu vois, le manque de sommeil, la mauvaise alimentation.
Il n'y a pas que l'alimentation, quoi.
Voilà, le stress, ce manque d'activité physique. Et puis, la vie, aujourd'hui, qui est devenue beaucoup plus anxiogène qu'elle ne l'était avant. Donc, il faut absolument trouver des astuces ou des habitudes qu'on peut intégrer facilement à son mode de vie pour retrouver un peu de zénitude. Tu veux que je t'en dise quelques-unes ?
Oui, vas-y.
La première des choses, pour moi, ce qui doit être vraiment indispensable, pour moi, c'est le plus important, pour récupérer déjà notre capacité d'attention. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, on est de plus en plus hyperactifs. Mmh. Hein ? Donc, imagine les enfants qui sont nés avec TikTok. Ah ouais. Les profs me disent, les maîtres d'école, ils me disent, les enfants, des fois, il y a un livre qui a été écrit là-dessus avec des études où un enfant ne peut pas se concentrer plus de 8 secondes, en fait. C'est la mémoire d'un poisson rouge, 8 secondes. Donc, il faut constamment l'éveiller. Et je le vois, moi, je suis intervenu dans des classes assez récemment. Là, je le ferai plus parce que je me suis viré du lycée la dernière fois. J'étais hors de moi. Je disais, j'avais des élèves en face de moi. Bon, c'était un lycée technique. J'aime bien aller dans les lycées, soi-disant, avec des enfants en difficulté. Pour moi, ils sont très éveillés, enfin, ouverts. Pas ceux-là particulièrement parce que ils étaient très bruyants. Ils étaient comme ça, tu vois. Vachis sur une, tiens-toi droit, tu vois. Puis, moi, à mon époque, quand il y avait un intervenant qui rentrait dans la classe, automatiquement, tout le monde se levait.
Ah oui, oui, bah ça, c'était, non, ah ça, non. C'était avant, ça.
La prof, allez, levez-vous. Bon, c'était une enseignante. Il y a beaucoup de femmes.
C'est déjà bien que l'enseignante le demande.
J'ai appris qu'il y avait, en fait, il y a énormément de femmes, en fait, dans l'enseignement.
Non, mais 90% des profs sont des femmes, bien sûr.
Je pensais pas que c'était autant, tu vois. Bien sûr. Tu veux que je te dise ce qui manque à l'école aujourd'hui? C'est la discipline.
Ah bah oui. Bah
c'est quelqu'un, tu vois, qui tape un peu sur la table, tu vois. Moi, fermez-la maintenant. C'est ce que j'ai dit, en fait.
Ah oui.
J'ai tapé sur la table, j'ai fermé-la. J'ai fait le silence en instantanément.
Ah oui, ils font tout de suite. Parce qu'ils sont tellement pas habitués.
Personne ne leur a parlé comme ça.
Ils se demandent, ils disent, allô, venez.
Il y en a un qui m'a dit, oh monsieur. Et je me suis fait engueuler par la prof.
Ah ouais. Mais voilà.
Vous êtes fou.
Bah oui. Attends,
convoqué avec le
chef d'établissement.
L'établissement, il n'a pas voulu me recevoir. Il a fait passer le message à la CPE en disant non, monsieur Artigo, quand même, non, il s'est mal comporté. C'est vrai qu'après, j'ai fait des stories sur Instagram. Bon, j'ai pas dit le nom, ouais. C'est, j'ai tellement hors de moi.
Mais il y a de quoi.
Si tu veux, ouais. J'ai vu aujourd'hui ce manque de discipline, ce manque d'autorité. Il manque de l'autorité. Ouais, ça va, l'école, c'est pas l'armée. Mais il doit y avoir l'autorité, au moins du professeur. Il n'y avait aucune autorité.
Non, c'est bien, tu vois. Mais oui.
Je sentais que c'était plus un copain, tu vois. Mais moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Mais moi, je commence à parler comme un vieux.
Non, mais c'est quelque chose qu'on observe quand on est dans l'éducation nationale. Oui.
C'est donc, pour en revenir à la chose la plus importante à faire, c'est la lecture.
Ouais.
Il faut lire. Il faut lire tous les jours.
Et lire des livres.
Mais bien sûr.
Tu pas lire son télé avec son téléphone.
Mais non, mais trucs. C'est pas lire ça. Lire là. Donne-moi la brochure. La brochure. Il faut lire ça. Faut lire ça. Je fais du placement de produit parce qu'il voulait pas la montrer. Donc voilà, excellente revue.
Oui, mais parce que quand l'émission va passer, on aura la revue d'après.
Voilà. Bon. Voilà, c'est la revue d'après. Excusez-moi. Bon, voilà.
Donc, c'est très
avec Poutine. Donc voilà, ça c'est du papier. Au moins le papier. Tu sais l'avantage du papier par rapport au téléphone ?
Non.
Quand tu lis. Tu reçois pas de notification, t'as pas de petit SMS d'un coup, pas. Non, tu es dans la lecture. Tu restes dans la lecture. Bon, tu peux aller sur des codes-barres si tu veux, ça c'est la technologie moderne, mais voilà. Mais c'est très important parce que le papier en plus, il n'y a pas d'onde électromagnétique,
d'accord.
Tu peux lire n'importe où, prenez une lumière un peu tamisée. Si vous lisez le soir, vous allez être fatigué, mais lisez au moins 5 minutes. Après, vous lisez 10 minutes. Je ne vous demande pas de lire comme moi. Moi, je lis quasiment 3 heures par jour. Mais bon, en journée pour mon travail, au moins une heure après pour le soir. Parce que la lecture, c'est un monde incroyable. J'aimerais beaucoup, tu vois, parler beaucoup plus de la lecture. Parce que lorsqu'on a des livres... On trouve des livres que l'on aime. Ouais. Moi, je suis un grand fan, pour en revenir à la musique, de biographie.
Ah oui ?
La dernière biographie que j'ai lue, c'est celle de Phil Collins, Not Dead Yet. Qui est juste une merveille. Début avec Phil Collins, Peter Gabriel, enfin le truc, moi, ça me remplonge dans mon enfance. Mmh. Une fin de vie quand même assez dramatique, tu vois. Il a beaucoup pris de cortisone par rapport à ses problèmes de voix, parce qu'il faisait des concerts. Tu te rends compte, Phil Collins, ça a été le plus gros artiste des années 80. Mais en même temps, le plus gros vendeur avec Genesis. Le mec, il était encore plus populaire que son groupe, qui était déjà une méga star.
Oui, oui.
Puis il était de partout, Phil Collins, dans les années 80. Et donc, quand je, des fois, j'ai hâte d'être au soir pour continuer la lecture.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, des fois, je me vois un peu des séries, parce que je ne suis pas quand même, voilà, je ne suis pas, je dirais, un esthète par rapport à tout ce qui est... tout ce qui est divertissement, hein. Donc, voilà, je suis pas parfait. Je me divertis lorsqu'il faut se vider le cerveau. Il y a des séries qui sont très bien faites. Quoique, lorsqu'on regarde les séries sur Netflix, on se dit mais attends, la dernière c'était pro-vax, c'était pro-climat, c'était pro-LGBT, le fils du héros était trans. Je me dis mais
c'est des oubliés, c'est oublié.
C'est oublié. Je pense que c'est dans le cahier.
Et d'ailleurs, il faut faire attention parce que sur YouTube, on a intérêt pour ça, ou en tout cas ne pas dire qu'on est contre.
Je suis pas contre.
Non, mais non,
contre. Mais je constate que quand même, c'est quand même très fréquent.
Bon, oui, bref, oui. Ah oui,
je mets ça de côté.
C'est ça.
Je mets ça de côté. Mm-hmm. Voilà, il faut quand même se divertir, etc. Mais la lecture, c'est vraiment l'acte qui va nous permettre de récupérer un peu de concentration.
Et de neurones.
oui, de neurones aussi, bien sûr. D'ailleurs, j'écoutais pas plus tard que ce matin, tu vois, sur Instagram, on a des choses intéressantes aussi. J'ai pas retenu son nom, mais il disait astreignez-vous à lire des livres qui sont complexes.
Oui.
Tu vois, plutôt que des livres très simples. Même si vous ne comprenez pas tout, lisez quand même une page, faites l'effort intellectuel, voilà. Surtout pour vous préserver des maladies dégénératives type Alzheimer aussi, tu vois. Donc vraiment, la lecture, c'est indispensable. Il faut trouver des livres qui vous intéressent. Il y a plein et pléiade aujourd'hui quand même d'auteurs, quoi, tu vois, et de livres. Mais faire l'effort de la lecture, c'est pas évident, puisque c'est aujourd'hui, c'est un effort de lire. Pour beaucoup. Mais ça doit devenir un plaisir. Et pour moi, c'est... Vraiment quelque chose, pour moi, c'est primordial. La lecture est primordiale.
Tu vois, Gilles, ça fait 2 heures pratiquement qu'on est
déjà
qu'on échange. Il reste que quelques minutes. C'est incroyable, hein. Incroyable.
Okay.
Et on a fait une boucle.
Ouais.
On pourrait en faire d'autres, des boucles, ouais. Ça c'est sûr. Mais on a fait une boucle parce que on a commencé avec l'imprimerie.
Ah ben tu vois.
Et ouais. Tu as vu comment on termine par les livres. Et là, tu as eu besoin et se toucher. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'en parler, il a fallu que tu prennes le...
Non, moi, je peux te dire déjà ce que c'est comme papier. Ça, c'est, ça doit être un coucher demi-mat, à mon avis. C'est un demi-mat, ça doit être, à mon avis, 100 grammes.
Ouais.
100 ou 110 grammes. J'ai perdu un peu le truc, mais...
Celle-là, c'est quali-
ça, c'est un 250. C'est le... Ça, c'est du pelliculage mat,
c'est qualitatif, ça va.
Oui, oui, ça, c'est du pelliculage mat, ça, c'est sûr. Avec, à mon avis, du 250 grammes couché brillant. Voilà, bon, bien sûr, imprimé en quadri, avec deux points métal, voilà.
Tes livres, tu y as fait attention aussi à ça?
Avec le livre, quand je suis allé, en fait, signer le bon à tirer dans une imprimerie qu'on a trouvée sur notre chemin, quand même, on a trouvé une rotative qui imprimait des livres en petite quantité, parce que la première édition, quand même, on l'a sortie à 2000 exemplaires.
Hein. Ouais, tu aujourd'hui, pensais pas que ça aurait...
C'est 120 000, mais ouais. On en a fait plusieurs aux autres, tu vois. Mais on a toujours regardé cet imprimeur, on est très fidèles. En fait, c'est un gros groupe, en fait, d'imprimeurs. Et donc, c'était une rotative qui était sur notre chemin, perdue en Mauricie, quoi, tu vois. On est rentré un peu par hasard, et puis mon père rêvait d'imprimer un livre en rotative, tu vois. Et moi, son fils, j'ai écrit un livre...
Et de l'émotion, hein. C'est normal.
Qui était primaire rotative.
Oui. Ça, c'est. Et le. S'il y avait à terminer cette émission, Gilles, avec tout ce que tu as fait, je suis persuadé que tu as encore une foultitude de projets, d'avenir. Tu as fait deux livres, mais en fait, je crois que t'en as encore plein, tu as encore tellement à donner.
Oui, mais quand tu es seul, en fait, c'est voilà, je travaille avec Valérie, on est deux, on est un binôme, on gère nos éditions, enfin c'est elle qui est mon éditrice, donc je produis du contenu, j'ai ouvert le Hit Club, on en a pas parlé, mais je l'ai ouvert, c'était en mars 2020, quand les livres sont devenus des objets non essentiels, tu vois, donc en plus de sources de revenus,
oui,
quand t'es pas financé par l'État,
on avait oublié ça, non
pas Libération, tu vois, qui touche les subventions, moi je touche rien du tout, et donc j'ai ouvert une chaîne. Voilà, j'ai ouvert une chaîne privée. Je diffuse sur un canal privé. Je suis sur Patreon, donc j'ai aujourd'hui des gens qui me suivent quasiment depuis 4 ans et qui participent à faire ce que je fais aujourd'hui.
C'est essentiel, ça. Hein, c'est essentiel. Les gens sont disent toujours merci. Ils sont très très attachés. C'est essentiel de faire ça. Si mais les livres sont peut-être pas essentiels, mais c'est faire ce que tu fais, faire ce que nous faisons beaucoup sur tous ces sujets. Ils ont beaucoup de témoignages, mais de gens qui m'ont dit on a survécu grâce à ce que vous avez dit. Ouais. Les uns les autres.
Ouais, ouais. Moi, on a tous fait le même travail, je pense, pendant le confinement. Ouais. Moi, je me suis emporté. J'ai fait une émission par jour. Hein. J'en fais plus de 1500. donc tout ça en duplex. J'ai même fait, là, récemment, on a fait un duplex avec la Russie, avec Saint-Pétersbourg, lorsque c'était en pleine période de guerre en Ukraine, au tout début, quoi, tu vois. Ouais. Bon, bref. Ouais. Et donc, en fait, l'envers de la médaille, c'est que je suis aujourd'hui connecté à l'actu. J'ai plus le temps que j'avais sur les deux premiers livres de sortir, en fait, de me retirer quelques mois pour écrire. Toute la matière est là. J'en ai même plusieurs en perspective. Mais le fait de vivre cette actualité, de la retranscrire, surtout de l'analyser, parce qu'on n'est pas des commentateurs sportifs, toi et moi, hein. Donc on analyse, et puis on prend de la hauteur, et on explique les fonctionnements. Moi, je donne des clés de compréhension, en fait, pour comprendre la société, pour ne pas la subir. Et je pense que ça a sauvé des vies. Je te le dis, hein, je mesure mes mots. On a sauvé des vies pendant le confinement, hein. Et on a sauvé des vies pour des gens qui n'ont pas fait l'acte, que beaucoup ont fait ou qui ont été obligés de faire. Hein. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et je pense qu'on a peut-être on parlera de nous dans quelques décennies, quoi. On a vécu en 2020 et 2021 deux années. À mon avis, qui sont cruciales dans notre histoire, par rapport à l'ingénierie sociale, mais bon, on n'a pas
sauver, le temps sauver de développer. Sauver des vies, Gilles, et puis tu disais, on parlera de nous dans des années, mais aussi sauver des âmes, et ça, c'est éternel, on parlera de nous éternellement pour ça. Et ça, tu fais partie de ces gens qui sauvent les âmes, Gilles, indéniablement.
Merci, Nicolas.
Et ben voilà, c'est terminé cette émission.
C'est toujours aussi agréable de converser avec toi.
Je crois que c'est les gens qui connaissent Gilles Lartigot vont le découvrir dans cette émission encore sous un angle et sous un jour qu'ils n'ont pas nécessairement vu. Ça ne fait qu'enrichir la palette du personnage.
Merci, ben c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as suggéré de parler de ma vie passée. Je voulais pas forcément la mettre en avant, mais je me rends compte que même moi j'ai pris plaisir à me replonger, tu vois, dans ces années-là, parce que ça explique aussi beaucoup de choses. Et voilà, donc si ça peut servir à des personnes, en tout cas, transmettre des informations et puis motiver surtout les personnes à ne pas tomber dans cette sinistrose, si tu veux, ambiante. Ne pas être dépressif, rester en France, on a besoin de vous. Ne partez pas tous à l'étranger, on va se retrouver tout seul avec Nicolas.
Bon, on continuera, c'est pas grave. Voilà. Avec aussi donc le magazine de Géopolitique Profonde, j'ai même plus besoin d'en parler puisque tu en as parlé mieux que on en avait parlé depuis bien longtemps dans ces émissions. Merci Gilles, merci beaucoup.
Merci Nicolas.
Pour ce passage sur Géopolitique Profonde TV.
Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.